Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 1er mars 2021, premier du mois donc. Nous allons revenir ce soir sur la victoire 4-0 à Dijon qui, admettons-le, n'était pas le match de la saison, mais on est là tous les lundis, on n'allait pas arrêter en cours de route. On fera ensuite un petit point course au titre, éventuellement on évoquera le match de mercredi soir à Bordeaux en vitesse. Bon, on verra. Nous sommes quatre pour revenir sur cette rencontre, l'équipe habituelle, pas de turnover, rien du tout. Nous avons normalement Monsieur Martinelli qui est là, bonsoir Mathieu.
Salut à tous.
Voilà, nous avons Omar aussi qui est là normalement.
Bonsoir à tous.
Et nous avons l'enfant terrible, Simon.
Bonsoir messieurs, bonsoir les auditeurs.
Oui, bonsoir à tous sur le live, je vois qu'il y a déjà des habitués, je reconnais des pseudos et tout, ça fait très plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. Non Simon, tu n'allumeras pas la console si on parle de Dijon PSG pendant plus de 20 minutes, il est hors de question. On va donc commencer tout de suite par ce match. Oui, l'enfant terrible propose déjà de ne pas passer plus de 20 minutes sur ce formidable match du samedi après-midi. Nous avons retrouvé un horaire que nous connaissons bien, le samedi 17h après PSG Nice. Les Parisiens ont été un peu meilleurs que contre Nice et se sont imposés 4-0. Victoire, oui, avec des buts. Donc je refais le fil. But de Moïse Kine à la 6e, de Kylian Mbappé à la 32e sur penalty. Encore une fois, Kylian Mbappé à la 51e sur une jolie passe de Rafinha. Et enfin, Danilo Pereira, la montagne, comme il est surnommé par Kimpembe, a inscrit le 4e et dernier but à la 82e sur une passe décisive de Julian Draxler. Le fameux pouls du match, on me demande ton PSN, Simon, je te laisse aller le donner dans le chat. Donc, on va faire le fameux pouls du match sur ce Dijon-PSG. Bon, bah, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça a été globalement le match de Ligue 1 le plus facile de la saison pour Paris, face à, en tout cas à l'extérieur, mais je pense que même à domicile, on n'a pas trouvé aussi faible. Dijon avait été même moins mauvais au match aller, je pense, pour le même score d'ailleurs, 4-0 déjà. Donc une rencontre vraiment très 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 facile que le PSG s'est encore plus facilité avec ce but rapide et puis bah, face à une équipe de niveau, allez, en étant gentil, Ligue 2 voire nationale, qui est complètement démobilisée, à qui il manquait quelques joueurs en plus pas prévu, notamment bah, les deux milieux de terrain qui étaient annoncés, Ndong et Lotoa. Ça a été une rencontre vraiment très très facile. Après, il faut encore gagner à Dijon. Bon, alors, je dis ça, ils n'ont pas gagné un match de la saison à domicile, donc c'est pas super compliqué, mais Lyon avait gagné 1-0 seulement et n'avait pas vraiment été en mesure de se mettre à l'abri. Donc, victoire 4-0, victoire facile. Dans la course au titre, il reste 12 matchs. Il faut gagner des matchs. C'est fait. Pas trop de blessés, même si Danilo a pris un petit coup au tibia. Bon, voilà. Une rotation qui a plutôt bien fonctionné avec des remplaçants qui ont pu gagner du temps de jeu. Bon, honnêtement, c'est un peu un samedi après-midi de... peut-être pas de rêve, mais qui tombe très très bien, puisque bah, on venait de perdre contre Monaco, il fallait vite regagner. Alors c'est sûr que c'est pas le genre de rencontre qui va forcément t'apporter beaucoup de certitudes à moyen terme, mais c'est au moins ça de prix, ça fait un déplacement de moins à gagner. Donc voilà, c'était vraiment le match facile dont on rêvait et qui a eu lieu, donc on verra quoi. On se dit il manque que Mecha Bazdarevic à Dijon et la Ligue 2 sera assurée. Ah, je pense que là, même avec Guardiola à la tête de l'équipe, la Ligue 2 est assurée. Entre le match et même, on voit il y a eu des déclarations d'après-match complètement lunaires de la part des Dijonais qui ont renoncé à la Ligue 1 de façon certaine désormais. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quand même Konaté, donc, qui était l'avant-centre de Dijon samedi soir, qui a dit ouais, il faut qu'on essaye de sauver pour les salariés du club, pour la suite et pour nos carrières. Donc quand vous avez vos joueurs qui pensent déjà plus à eux-mêmes qu'au club qui est en train de couler, en général, vous avez les deux pieds dans la tombe. Et vu ce qu'ils ont montré, on ne voit pas comment ça va pouvoir être autrement. Concernant le match, à vrai dire, c'est assez bizarre, c'est que j'ai pas grand chose à en dire sur ce bout du match, si ce n'est que ça a été facile, que le PSG aurait peut-être même pu marquer encore plus, mais on va quand même noter un point, c'est qu'il y a eu finalement très peu de tirs concédés. Bah, Keylor Navas fait un seul arrêt, je crois que c'est même la seule frappe cadrée dijonnaise. Et le PSG n'en a pas eu énormément non plus, puisqu'on met 4 buts en 7 tirs, comme on l'a écrit sur le site, c'était Thibaut qui a fait l'article. Beaucoup moins de tirs que d'habitude dans un match du PSG, je pense que ça en dit long, à savoir que le PSG n'a pas eu besoin de beaucoup attaquer, et n'a pas spécialement été attendu en défense, d'où cette espèce de rencontre où ça s'est joué sur un rythme très tranquille, où Paris a vite su se mettre à l'abri, et où bah, finalement on gagne 4-0, mais je pense que ça aurait pu être 6-0 ou 3-0 sans que ça aurait pas changé grand-chose. Voilà un peu ce pouls du match un peu particulier, parce que ça a vraiment été une rencontre de Ligue 1 qui ressemblait plus à une sorte d'amical de début de saison ou à un match de Coupe de France contre une petite équipe. Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match un peu particulier. Je ne sais pas ce que tu peux rajouter, toi.
Ça va être difficile d'épiloguer ou d'étoffer encore sur un match où il y a assez peu de substance et de moelle à tirer. Bon, si ce n'est le 1 sur 12 hein, que les joueurs ont visiblement voulu souligner, le fait de démarrer une nouvelle série et de remettre entre guillemets les compteurs à zéro pour pouvoir enchaîner les potentiellement 12 victoires jusqu'au titre. On va dire que la série commençait par le match le plus simple des 12, et je pense d'assez loin. Ça a été 4-0 en 7 tirs, mais c'est vrai que si Paris avait eu besoin d'en marquer 6, on aurait probablement marqué 6. Et si on aurait pu aussi s'arrêter à 2 ou si on l'avait voulu aussi. Donc c'est un match très très peu exigeant. Donc, comme tu l'as dit, le but rapide a permis d'être à ta main, être contrôlé. Et Dijon était même pas dans l'idée de recoller au score ou de procurer du danger. Je pense qu'ils voulaient vraiment limiter la casse. Ils y sont partiellement parvenus. Mais bon, on sent que si Paris avait voulu plus accélérer ou si Paris avait encore eu plus de talent sur le terrain, puisqu'on avait quand même pas mal d'absents aussi.
Oui, tu as raison.
Ça aurait pu être encore plus lourd pour Dijon, qui est effectivement l'équipe de loin la plus faible qu'on ait affrontée. Probablement même en incluant l'équipe de Coupe de France, je sais pas, mais possiblement aussi. Donc,
Coupe de France, non, effectivement, on a joué où, attends, je me souviens plus. Le premier match de Coupe de France, le 32e, c'était où déjà?
On a joué à Caen, mais Caen, c'est beaucoup plus fort que Dijon.
Oui, Caen,
Pascal Dupraz.
A été plus loin à se dessiner face à Caen, on va dire.
Le jour où Neymar s'est blessé, j'avoue. Comment j'ai pu oublier? Non, vas-y, excuse-moi, Mathieu, continue.
Non, voilà. Et sinon, comme tu l'as dit, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être plus des nouvelles sur le point individuel. Le fait de continuer à relancer Draxler et Rafinha, qui forcément ont un temps de jeu qui augmente avec les absents qu'on a devant. Et puisqu'on ne connaît pas encore la date de retour de Neymar et que Di Maria, forcément, va avoir besoin aussi d'un peu de temps pour réenclencher, c'est bien quand même de les avoir intégrés dans la rotation. Et peut-être aussi deux autres joueurs, Diallo et Keane, qui continuent de montrer leurs bonnes choses depuis le début de saison. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y a même pas de mascotte ou d'anecdote auxquelles se rattacher sur un match. Par exemple, avec le début d'un jeune, le début significatif d'un jeune, parce qu'évidemment Michu a débuté, mais il n'a pas touché la balle.
Bah attends, il a quand même eu droit à une vidéo highlights sur YouTube. Vous pouvez aller vérifier, il y a une vidéo highlights, Edouard Michu, premier pas avec le PSG, où on le voit rentrer en jeu, et puis bah, c'est fini, ou quoi.
Et voilà. Se faire tondre les cheveux, voilà.
Voilà, c'est ça.
Limite, c'est ça qu'il aurait fallu filmer pour Michu. Mais non, voilà, à part ça, effectivement, un match extrêmement facile, et le gros commence... plus mercredi, puisque avec encore plus d'absents et
on joue à thème,
toujours un droit à l'erreur très réduit, t'as besoin d'enclencher et de ne pas perdre de points en route face à des équipes qui sont décidément et définitivement beaucoup plus faibles que toi.
Sur le live, on me dit, si on ne marque pas vite, je ne sais pas si ça aurait été aussi facile. Je ne sais pas, Simon, ce que tu en penses un peu de cette thèse du but très rapide qui a facilité la tâche du PSG aussi
ou non, c'est forcément plus facile. Après, Dijon était tellement... affaibli, il y avait une saison tellement catastrophique que je pense que malgré tout, on aurait fait la différence à un moment ou à un autre. Donc non, c'était vraiment un match très facile, et ça donnait l'impression de voir un entraînement, dans le sens où il y a beaucoup de moments qui rappelaient vraiment des joueurs qui jouent comme à l'entraînement. C'est-à-dire que tu as une décontraction qui fait que tout le monde tente sa petite talonnade, son petit pont, tout le monde se fait plaisir et tente des trucs qui tenteraient pas forcément d'habitude dans des matchs un peu plus sérieux, d'un meilleur niveau. Et en même temps, il y a des gestes de facilité qui font que tu rates des trucs que tu raterais pas d'habitude. Il y a l'action qui amène le deuxième but, je crois. Dijon nous regarde jouer et nous laisse faire, mais il y a 3 ou 4 joueurs qui ratent des contrôles simples. Et tu perds pas la balle, alors que dans un autre match, tu aurais perdu la balle à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment ce genre de détails, à mon avis, qui trompent pas sur le niveau de la partie, quoi. C'est que quand un joueur sur une action, il te fait une talonnade à l'aveugle dans la course, et l'action d'après, il fait un contrôle américain en touche. Bon, c'est des trucs qui ne trompent pas, à mon avis. Donc non, je pense que malgré tout, on les aurait assez facilement battus. Dijon est une équipe qui jouerait même pas le top 10 de Ligue 2, à mon avis. Donc non, je pense que au niveau du jeu, c'était très anecdotique ce qui a pu se passer. Mais par contre, ça peut être un week-end décisif pour la suite de la saison quand on prend la course au titre et toutes les équipes engagées, en tout cas.
Ouais. Tiens, ce qu'on me dit sur le live, c'est le symbole du renoncement de Dijon, c'est le penalty où ils ont tous baissé la tête, même pas de contestation pour la forme. Ah oui, c'est sûr que le penalty, bon, en plus, il sort de nulle part, la frappe, elle part limite en corner, enfin au poteau de corner, et l'autre met la main. Enfin, il y a vraiment rien qui va dans cette équipe de Dijon, les pauvres. C'est vrai qu'ils ont réussi à s'en sortir l'an dernier de peu avec l'arrêt de la saison, mais c'était déjà catastrophique l'an dernier, c'est pas comme si c'était beaucoup renforcé. Attendez, j'avais vu une autre marque. Je vois pas. Bon, c'est pas très grave. On nous dit que Bordeaux est vraiment nul en ce moment. Bah, Bordeaux, méga crise. Ah non, c'est ça la remarque qu'on me signale, c'est que on a un jour de plus de récupération que les autres pour les matchs de mercredi, puisque bah Bordeaux a joué dimanche, visiblement, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Bordeaux-Metz, c'était le match à... ou c'était le match à 13h samedi, pardon. Non, pas Bordeaux. C'est les autres matchs. C'est Monaco, Lille et Lyon qui ont joué dimanche soir. Voilà. Qui ont joué dimanche, pas forcément dimanche soir. Donc on a un jour de récupération en plus par rapport à eux. Mais nous, on joue une équipe qui a joué le samedi, en l'occurrence Bordeaux, qui a perdu la dernière seconde à domicile contre Metz. Metz qui est d'ailleurs en ce moment 5e de Ligue 1, si je ne me trompe pas, c'est assez inattendu. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect collectif, quelque chose qui t'a plu, peut-être un peu par rapport au choix qu'a fait Pochettino, sinon?
Non, les choses plaisantes, elles sont dans certaines performances individuelles. Qui te permettent d'avoir un petit peu de satisfaction lorsque tu sors de ce match. Après, c'est un match qui a aucune tension compétitive de la première à la 90e minute. Ça devrait même pas être diffusé, en fait. C'est la prestation de Dijon. Ce match vaut à peine le coup d'être évoqué. Donc,
bon.
Je suis content d'être avec vous. Je suis moins content d'avoir vu un match pareil. Franchement, c'est absolument terrible d'aller sur un terrain de foot professionnel pour produire ce qu'ont produit les Dijonais. Je sais bien que c'est pas eux qu'il faut accabler, mais le match est tellement vide que enfin
c'est pas eux aussi. Moi je suis supporter Dijonais, j'ai mal, quoi, honnêtement.
Ouais, voir autant de renoncements, c'est assez terrible, quoi. Franchement, ouais. C'est vraiment 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 terrible.
Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, non, sur les choix de Pochettino, par exemple, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, on va un peu comme ça attaquer les performances individuelles. Le choix de mettre, notamment, pour moi, ça fait. On va remonter les lignes. Hein. Bon, on avance dans les buts, c'est normal. Le choix de mettre Abdou Diallo à gauche, est-ce que vous avez été surpris ou pas du tout? Vous attendiez? Je sais pas. Moi, je pensais honnêtement qu'il allait le mettre dans l'axe à la place de Kimpembe, qui a pas toujours été très bon sur 2021.
Mettre Backer, quoi.
Ouais, voilà, bah Backer.
Non, je crois que Backer est vraiment très très loin dans les pensées. Non, mais là,
que Pochettino mette Diallo à gauche, c'est le retour de la lutte pour le titre, quoi. C'est Pochettino, il croit encore. Pour vraiment écarter Backer au point de ne jamais le mettre et de faire des petits bidouillages, de faire jouer Kimpembe avec le visage déformé par la rage dedans et Diallo à son poste où il peut dépanner, mais qui n'est pas son poste naturel. Ça veut dire beaucoup de la place de Backer dans la hiérarchie et du sérieux que Pochettino veut remettre un peu dans les rencontres, à mon avis.
Non, mais il y a 3 points à gagner, on n'est pas une agence d'intérim, on met les meilleurs. Il ne s'agit pas de répartir les minutes dans un principe totalement égalitaire pour que tout le monde puisse dire « j'ai eu des minutes en fin d'année ». On est dans une lutte pour le titre. Abdou Diallo est infiniment un meilleur latéral gauche que Michel Backer. Voilà, terminé. On va laisser peser. Et en plus, les faits lui ont donné largement raison. Parce que même le meilleur backer n'est pas capable de produire ce que Diallo a fait pendant les 10 premières minutes de match. Donc,
mais après...
En plus, il n'est pas content. Donc, laissons-le brouter son seum de côté.
Non, après, moi, ça m'a surpris, par exemple, c'est que Diallo joue donc côté gauche. Ça, je trouve ça intéressant. Mais par exemple, on a vu dans quel état a joué Kimpembe. D'ailleurs, je trouve que ça s'est vu. J'ai pas trouvé son match bon, par exemple. Notamment après un mi-temps où je le trouve vraiment en difficulté. Mais c'est étrange que quand même qu'il n'ait pas voulu faire jouer Kurzawa, ou alors Kurzawa avait un petit truc, on sait qu'il est un peu fragile. C'est ça qui m'a surpris, c'est le fait que Kurzawa joue pas.
Je pense que Pochettino va peut-être donner de la continuité à une charnière qui au final, depuis ses quasiment 2 mois de présence, a été assez peu utilisé ensemble. Donc là, c'était l'occasion de leur donner. Je crois que c'est la première fois qu'ils font 3 matchs consécutifs ensemble depuis son arrivée. À vérifier, mais il me semble que c'était le cas.
Bah, il y a Nice où ils sont dégueulasses, Monaco où ils sont pas terribles, Barcelone. Et j'ai un doute sur le match précédent parce que de mémoire, Marquinhos s'était blessé à ce moment-là avant.
Donc ça fait 4 matchs du coup.
Ouais, 4 matchs consécutifs. Ah,
C'est une bonne nouvelle parce que pour le coup, la charnière tournait beaucoup ces dernières années, on va dire, y compris l'an dernier où on avait utilisé une grosse dizaine de charnières. Je ne me souviens plus exactement du nombre précis, mais on devait être entre 10 et 15. Et la charnière la plus utilisée sur la saison régulière, entre guillemets, jusqu'au confinement, c'était Thiago Silva Kimpembe. Ils avaient joué peut-être 13 matchs ensemble. Donc c'était vraiment très peu. Et donc là, c'est bien d'installer enfin Marquinhos Kimpembe, d'avoir un maximum de stabilité sur ce poste-là. Et si Kimpembe était en mesure de jouer, visiblement c'était le cas, il n'y avait pas forcément de raison de changer. Et quelque part, c'est peut-être mieux d'essayer Diallo en plus de Marquinhos et Kimpembe. Ça te permet de le roder un peu sur un poste où il peut être utile, où il y a une carte à jouer, parce que Kurzawa ne convient pas à 100% non plus. Plutôt que de rebousculer un peu ta charnière, de faire jouer un joueur moins bon comme backer. Et quelque part, tu créerais rien et tu construirais rien avec cette solution-là. Tu ferais plaisir à backer, mais tu construirais rien de compétitif ou quelque chose qui te servirait vraiment pour la suite de la saison. Alors que là, même si évidemment l'adversité est extrêmement faible, ça te permet de roder des joueurs ensemble et à des postes où ils vont avoir un intérêt et une utilité.
Après, backer, c'est possible, je serais pas sûr. Enfin, si on a des matchs qui servent vraiment à rien en fin de saison.
Ah, backer, il doit être utilisé face à Brest, dimanche, ou samedi, je sais plus.
Samedi, 21h10. 21h10, c'est tard.
Bon, une fois qu'il y a un match. Peut-être relancer Pembele. Hein.
Même un poste qui n'est pas. C'est mieux que ça, Brest.
La Coupe de France, titre, et tu t'en fiches un peu. Limite, il faut être éliminé le plus possible.
Non, mais Mathieu, c'est insupportable. C'est ça. Non, arrêtez avec votre football d'épicier, monsieur Martinelli. C'est terminé. Non.
Il gère les TCD.
non, mais après, surtout Brest, ils seront comme nous. Ça sera leur troisième match en une semaine. Je pense qu'ils vont devoir faire tourner. Ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer autant. Donc, faudra
déjà, tu vas devoir mettre Verratti et Mbappé sur le terrain pour qu'ils reprennent des minutes.
Exactement.
Aucun titulaire doit jouer face à Brest. Les deux pour reprendre du rythme.
Bah, peut-être, enfin, on verra.
Il faut qu'on envoie la réserve. Ils n'ont plus beaucoup de minutes en ce moment. Enfin, les U19 plutôt. Faisons confiance à ces jeunes.
Oui, c'est ça. Et puis, ils vont contaminer tout Brest, ils vont être contents, tiens. Bref. Bon. Non, mais oui. Sur le match de Diallo, pour revenir un peu sur ce choix, qu'est-ce que vous en avez pensé? Là, sur le live, on me dit, techniquement, Diallo au-dessus de la moyenne, il devrait même être capable de jouer au milieu avec sa capacité à casser les lignes et sa qualité de passe. Bon, peut-être pas. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il a déjà joué au milieu, tiens, quand il était plus jeune. Faudrait demander à son entourage. est-ce que... Bisous à eux, voire à lui surtout. Qu'est-ce qu'on en pense de Diallo arrière-gauche? Moi, j'avoue que tu l'as dit, Omar, il a fait un excellent début de match. Les 10-15 premières minutes sont vraiment très bonnes. Après, il a été un peu moins offensif, mais bon, le score est dense, c'est un peu normal. Je trouve que la qualité de ses montées, tu as souligné, même ses combinaisons, il s'est vraiment... je trouve qu'il a vraiment quelque chose dans la conduite de balle parmi nos latéraux.
C'est avec... Vers l'axe,
par exemple. Mais même la capacité à faire le double contact qu'il place là côté gauche. Attention, monsieur Diallo, vous vous enflammez là. Non, franchement, il fait un bon match offensivement. Après, il y a des moments où on voit que c'est pas totalement son poste. Mais ouais, le double contact d'un latéral, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu. Peut-être Robert Nat a dû en faire quelques-uns. Mais même, je sais pas, j'étais un peu genre. Oh. Samedi 17h, il m'a sorti de la sieste presque. Quoi. Donc, bon match de sa part. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Mathieu, Omar ou même Simon.
Très bon match de Diallo. Ça fera un mi-temps du moins parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, le rythme du match aidant et l'adversaire en face font que tu n'as pas besoin de pousser ce niveau de performance sur l'ensemble de la rencontre. Et qu'une fois le score acquis, tu peux être plus en gestion. Mais non, et je dirais même dans les deux phases, puisqu'il y a une ou deux couvertures aussi en première mi-temps également, sur des ballons un peu sur le côté, où il réussit à récupérer le ballon, à revenir en vitesse sur l'attaquant de Dijon avant que l'occasion soit créée. Donc non, vraiment dans les deux phases, et effectivement sur le plan technique, moi, j'ai bien aimé sa façon de rentrer comme ça à l'intérieur, de proposer des relais, c'est-à-dire quand il va faire une passe à Mbappé, parce que souvent c'était Mbappé qui était devant lui directement, il va continuer son action et poursuivre dans l'axe et se proposer un relais. Il ne va pas rester en retrait et attendre la remise de Mbappé. Il va vraiment lui proposer une solution pour faire progresser l'action. Et plusieurs fois, il a montré ce type d'occasion sur la première mi-temps. Donc, ça a fait avancer le jeu et globalement, à un niveau technique, qu'on lui connaît après. C'est-à-dire que Diallo, tu sais que c'est pas, s'il y a des problèmes pour lui au PSG, c'est pas sur le plan de sa compatibilité technique avec le reste de l'effectif. Et en ce sens, c'est vrai que le plus qu'il apporte face au backer qu'on a vu, on va dire, après le mois d'octobre au PSG, et même le Kurzawa qui est souvent, même s'il est meilleur de ce point de vue, mais qui est aussi irrégulier, qui peut rater des contrôles, qui peut rater des passes aussi. Forcément, ça se note dans le jeu et ça permet à l'équipe d'avoir une maîtrise un peu plus forte sur la rencontre.
Ouais, on nous dit sur Diallo. Ah, on me parlait de la qualité du. Je disais la qualité du français de Diallo, mais on me parlait de la qualité du français de Danilo. Non, on reviendra sur le match de Danilo peut-être après.
Diallo parle parfaitement français, effectivement.
Oui, non, Diallo, très agréable à écouter d'ailleurs. Très, très agréable. Un des plus intéressants de l'effectif. C'est dommage qu'on l'entende aussi peu. Après, bon, vu son temps de jeu, c'est normal qu'on le voit pas tous les 4 matins en conférence de presse ou en interview. Mais en tout cas, ça fait partie des joueurs intéressants de l'effectif, oui. Sur le live, on me dit, attendez, sur Diallo, j'ai vu, on me dit, je dis trop d'abus, Diallo c'est Maldini. Non, mais personne n'est en train de dire que c'est Maldini ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a des comparaisons avec notamment Lucas Hernandez qui est pareil, un arrière central qui, quand il joue sur le côté, a une façon de monter qui est un peu orthodoxe par rapport aux arrières latéraux classiques et pas forcément inefficace. Après, on n'est sûrement pas en train de dire que Diallo est Maldini ni même Lucas Hernandez, non, mais c'est plus en fait, c'est une comparaison par rapport à son style de. Son allant offensif qui n'est pas forcément le même que celui de Kurza. Moi, pareil, là, Mathieu, tu as parlé du fait qu'il arrivait bien à prendre l'intérieur. Et je trouve que c'est quelque chose qui est à noter, c'est que quand Kurza va jouer avec Mbappé, ils n'ont pas forcément une très bonne gestion de l'espace sur le côté gauche. Forcément, quand tu es sur un côté, tu es restreint par définition. Je trouve que Diallo a parfois mieux utilisé l'espace sur le côté en n'allant pas se coller à la ligne, mais justement en repartant vers l'intérieur pour dégager de l'espace à Mbappé, qui est quelque chose que Kurzawa fait justement assez mal. Je sais pas, Omar ou Simon, ce que vous en avez pensé un peu de cette partie offensive, mais moi c'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans son match justement.
Bon, excellente rencontre, hein, comme vous l'avez dit. Bien sûr, pas surpris par la qualité technique de Diallo, qui est un joueur du haut du panier. Je pense qu'il peut faire le taureau des Sudam. Dans le début de match, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est sa capacité à attaquer les bons espaces et pas toujours écarter, comme l'a dit Mathieu. C'est aussi sa capacité à se proposer à l'intérieur, à vraiment à combiner, à faire pas mal d'actions qui, du coup, connectaient 3 joueurs sur le côté. Ça a détruit le semblant de plan dijonnais et ça remettait un peu Diallo dans la course parce qu'il a été fauché par le Covid dans un moment où il a cumulé beaucoup de minutes et beaucoup de très bonnes minutes. Donc là, il se rappelle au bon souvenir de Pochettino en sachant qu'au moment où il sort de l'équipe, le titulaire à gauche, c'est plutôt lui parce que quand il quitte la défense centrale, on l'excentrait côté gauche et Kurzawa rentrait pas systématiquement. Donc il se remet dans l'équation comme la doublure de Kimpembe, le numéro 1 bis, voire, et surtout une alternative fiable et solide à Kimpembe quand on fait appel à lui, à Kurzawa, pardon. Et du coup, bien de le retrouver post Covid. Voilà, j'ai l'impression qu'il a bien lancé sa carrière au PSG depuis désormais la boulette qu'il avait eue contre Monaco. Les performances qu'il aligne sont plutôt toujours correctes et plutôt très très appréciables. Donc à voir et à revoir.
Tiens, sur live, on me dit. J'ai vu la vidéo du but avec le son bord terrain via le CFC. C'est Diallo qui demande la passe de Mbappé sur l'action. Et pas, donc c'est pas Mbappé qui voit l'appel de Diallo. C'est un peu peut-être le contraire. Mais c'est vrai que sur live, il y a plusieurs
personnes. Oui, il fait un geste à la Toni Kroos dans le but contre Barcelone l'année dernière. C'est vrai que dès qu'il déclenche le ballon pour Mbappé, il la redemande et il montre bien la zone. C'est vrai, c'est une bonne
passe de Mbappé, incroyable, ceci dit.
Ça aide. Bien plus.
C'est pas une passe décisive, mais elle vaut plus que certaines passes décisives qui ont été encensées dans le match, je le reconnais.
Ça faisait longtemps que les Brésiliens n'avaient pas pris un taquet, tu vois. Bref. Sur le... Ah oui, non, on me demande un peu, pour revenir un peu en arrière, parce qu'on est sur la partie individuelle, on dit, j'ai promis d'en parler, c'est le fait que Pochettino n'ait fait que 3 changements, alors que le match est plié à 55e. Je crois qu'il en fait 4, mais bon, peu importe. Ça, c'est pas justement un peu son idée de continuer avec les joueurs, de remettre certains dans le rythme, pour ça qu'il fait des changements aussi tardifs, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Simon, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'ai compris comme ça son coaching, à savoir, l'équipe gagne. Pas, et... Bon, t'en penses
je
rien.
Je suis pas sûr d'en penser grand-chose. L'équipe était effectivement très très à l'aise avec son match. Dijon n'était pas capable de proposer une réaction, donc il n'y avait peut-être pas besoin de, comme disait Omar tout à l'heure, de faire du management minute par minute où tu dois donner un peu des sucres à tout le monde, des minutes à tout le monde. T'as commencé le match, tu peux jouer pas mal et voir ce que ça donne. Donc non, je pense pas que c'était un match effectivement où le scénario, la dynamique de la rencontre appelait un coaching très entreprenant, on va dire.
Voilà. Je te rejoins totalement. C'est juste c'est normal aussi de laisser des 2 minutes à certains. Je pensais qu'il sortirait Keane un peu plus tôt même, par exemple, vu qu'on va jouer sans Mbappé à Bordeaux mercredi. Pour relancer peut-être un peu Sarabia, qui lui, pour le coup, semble vraiment être passé en 6e, 7e choix de l'attaque. Quoi. Donc bon, on verra. Sur Diallo, Simon, tu veux rajouter quelque chose outre, à part que tu me disais tout à l'heure que c'était Dijon, il ne fallait pas s'enflammer, mais à part ça...
Non, je ne le disais pas d'un point de vue individuel, je le disais tout à l'heure quand tu disais une meilleure gestion de l'espace qu'avec Kurzawa, tout ça, sauf que oui. Bon, face à une équipe normale, Kurzawa et Mbappé, côté gauche, ils prennent la pression, ils prennent des taquets... C'est pas Dijon qui est incapable de cadrer le porteur à 18 mètres de son but, quoi. Je le disais juste comme ça, en fait.
Non, mais t'as raison, non, effectivement, on fait pas des conclusions, mais c'est vrai que pour un non-arrière-gauche, je trouve qu'il a vraiment su attaquer les bonnes zones, comme l'a dit Omar.
Et c'est sûr. Et puis même techniquement, vous parliez des zones, des déplacements sans ballon et tout, moi, c'est peut-être même encore plus la technique qui m'a fait plaisir à voir, parce que trouver autant de relais intérieurs, autant de passes en une touche, notamment, de passes toujours bien orientées sur le bon pied qu'il faut à chaque fois. C'était pas non plus du Maxwell, on va pas s'enflammer, c'était que Dijon. Mais c'est un bagage technique qu'on voit pas toujours le concernant parce qu'il joue pas souvent arrière-gauche. Donc forcément, au poste de central, tu fais d'autres choses qui sont très différentes. Et ça m'a fait... c'était un peu l'attraction de la première mi-temps, j'ai trouvé, de le voir aussi à l'aise.
Très bien. Non mais bon... Il faut savoir profiter de ces minutes, c'est pas tous les jours qu'on me dit à gauche, on me dit ouais c'est que Dijon, mais je vous signale que le match le plus fort de la saison du PSG, enfin de la première partie de saison, c'était à Manchester et il joue arrière-gauche ce jour-là, donc c'est quand même un joueur qui a des références à un certain niveau, il a pas joué arrière-gauche que parce que c'était Dijon. Hein. Bon. Et on va pas faire 20 minutes de plus sur Abdou Lagdar Maldini Diallo. On lui souhaite, enfin on le félicite pour sa performance et puis bon, on verra la suite, mais c'est vrai que faudra voir maintenant le. À quel poste il est utilisé, s'il alterne entre la défense centrale et le poste d'arrière gauche, ou s'il va continuer en 1 bis en défense centrale, puisque Kimpembe reste un joueur qui a parfois des petits soucis physiques. On va voir. Est-ce qu'il sera utilisé en backup de Marquinhos aussi, en central droit, comme on l'a parfois vu en première partie de saison ?
À suivre. Ça peut faire un peu comme le Bayern avec Lucas Hernandez l'an dernier, qui était à la fois le premier remplaçant de Davis et d'Alaba.
Ouais, il n'a pas joué beaucoup d'ailleurs, il s'en plaignait un peu, mais bon, tant pis.
Non, mais malgré tout, ça te fait quand même un peu du temps de jeu si t'es. Si t'es le premier remplaçant de Kimpembe, le premier remplaçant de Kurzawa ou en concurrence avec Kurzawa, ça fait quand même jouer pas mal de matchs.
Après, ce qu'il faut souhaiter à Diallo surtout, c'est de pas se blesser, quoi, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le manque de continuité qu'il a eu, et Omar t'en a parlé, c'est quand même les blessures. Là, depuis qu'il est arrivé, c'était pas un joueur spécialement blessé avant. Je suis allé revérifier à Mayence, je crois qu'il rate 3 matchs, à Dortmund, qui en a raté 4, et dont un petit problème aux adducteurs depuis qu'il est arrivé au PSG, le pauvre, il a enchaîné les galères, le dos, la cuisse, je sais pas ce qu'il a eu encore, enfin. Aujourd'hui, ce qu'il lui faut, c'est de la continuité au niveau physique. Et les minutes vont venir d'elles-mêmes comme ça, peu à peu. Donc, bon. En tout cas, on te le souhaite, comme dirait un célèbre journaliste bord-terrain. De quel joueur vous voulez parler ensuite sur ce Dijon-PSG dans les choix qui ont été faits ? On passe direct à Rafinha ou vous voulez qu'on parle un peu du match de Danilo puisque nous avons eu le retour de Danilo dans le 11 de départ ? Première fois qu'on le voit de mémoire depuis Lorient, non ? Si je ne me trompe pas. Vous voulez un petit mot sur Danilo ou on passe à Rafinha ? Simon, je t'écoute. Tu vas choisir, Simon.
Danilo
Le joueur qui l'apprécie.
C'était peut-être le joueur qui nous a rappelé le plus à la normalité, quoi. Qu'il a, il a eu des bons moments, évidemment, et il se fend d'un but qui nous rappelle ses plus belles heures à Porto. Ça faisait un moment qu'on s'impatientait quelque part, parce qu'il y avait eu quelques occasions, des fois des tentatives de le mettre un peu dans des positions pour prendre des ballons de la tête sur coup de pied arrêté, mais on n'avait toujours pas vu de but. Et là, c'est le cas, donc tant mieux pour lui, ça scelle, ça scelle la rencontre. Mais après, je l'ai trouvé quand même peut-être plus en difficulté que d'autres. Après, c'est le joueur qu'il est, quoi. Techniquement, ça a tendance à coincer un petit peu sur pas mal de choses, entre guillemets, simples, parce que rien n'est simple, mais bon, j'ai pas grand-chose à dire sur l'ami La Montagne.
L'ami La Montagne. Non, mais juste, on peut dire, c'est que parmi tous les remplaçants, puisqu'il faut les citer comme ça, qui ont joué ce samedi, c'est peut-être celui qui a le moins tiré son épingle du jeu, quoi, au final. C'est pas méchant, c'est ça, quoi. C'est juste que bah il avait l'opportunité d'avoir du temps de jeu. Il avait été plutôt bon à Caen, même voire bien. Enfin, il avait fait un vrai bon match. Là, un peu moins bon. Et c'est vrai que par contre, moi je trouve ça dommage que sur un match comme ça, sur face à un adversaire vraiment faible, tu t'as pas l'impression qu'il est au-dessus, enfin qu'il est spécialement affûté techniquement, quoi. Bah, c'est la partie technique me gêne un peu, parce que sur un match comme ça, vraiment d'un niveau pas amical, mais pas loin. Ouais, on me dit sur la live, Danilo n'a pas le niveau suivant. C'est terrible comme conclusion, mais il y a malheureusement un peu de ça, quoi. Et après, tout le monde, ça a vraiment l'air d'être un bon gars. Quand on voit à quel point ils sont contents pour lui quand il marque, l'humilité qu'il a en fin de match, alors que le mec a quand même été capitaine du FC Porto. Je sais pas combien, il doit avoir au moins 60 sélections avec le Portugal. On parle pas d'un type qui... 30, même 30, bon voilà. Enfin, c'est fou de se dire ça quand on le voit jouer des fois. Mais j'ai du mal quand même à lui voir un futur dans ce club malgré tout. Et le pire, c'est que si on est dans les deux premiers du classement à la fin de la saison, il va devoir s'engager pour 3 ou 4 ans. Mais ça, en fait, ça, limite, ça m'ennuie pour lui, quoi. J'ai l'impression qu'il mérite de jouer, mais peut-être ailleurs, justement. Je sais pas. En fait, je trouve ça un peu triste, son histoire. Il était capitaine de Porto, il se retrouve à faire le bouche-trou au PSG dans des rôles un peu à la con, sans vouloir être méchant, quoi. Mais je sais pas. En fait, je trouve qu'il y a une vraie triste. C'est un peu l'histoire d'un rendez-vous manqué, un joueur qui aurait pu être intéressant il y a 4 ou 5 ans avant d'avoir ses problèmes physiques qui aujourd'hui le limitent beaucoup trop pour être un joueur dans une équipe comme le PSG. Bon, voilà, quoi. On me dit il fera le taf, ouais, c'est ça, quoi. Mais est-ce que c'est pas. Il serait pas mieux ailleurs au final? Je sais pas. Je sais pas, Mathieu, ce que t'en penses.
Le PSG d'il y a 4 ou 5 ans, j'aurais préféré ne pas voir Danilo dedans. Parce que.
Non, mais.
Pour le coup, là, t'aurais vraiment senti le gouffre tactique qu'il y aurait eu avec ses.
Ouais, tu vois ce que je veux dire. Une autre utilité, quoi.
Le Danilo d'il y a 4 ou 5 ans, avant qu'il se fasse le tendon d'Achille et qu'il devienne vraiment ce joueur qui physiquement montre des lacunes de mobilité terribles dans ce PSG-là. Oui, évidemment, le PSG d'il y a 4 ou 5 ans...
Tu l'as vu, le Danilo d'il y a 4 ou 5 ans au PSG, c'était Krikoviak.
Ouais. Oh, je pense que Danilo
était... Et ça a été un gros... Bah, après, c'est vrai que Danilo, il a l'air mieux intégré au groupe, etc. Donc, ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas plongé comme Krikoviak avait plongé en perdant vraiment toute sa confiance, etc. Et les problèmes de base, au final, ils auraient été les mêmes. Et quelque part, je pense que c'était plus facile. Je parle au passé, malheureusement, mais... Ça l'est encore si vu que la saison n'est pas terminée. Mais c'est plus facile en théorie et sur le papier pour un Danilo de s'imposer dans le PSG actuel qui n'a pas vraiment d'identité de jeu, qui est une construction, qui est un chantier assez ouvert. C'est-à-dire que l'entraîneur avec des profils assez hétéroclites dans l'effectif peut choisir d'aller dans une direction ou dans une autre. Quelque part, pour avoir un profil comme celui de Danilo, c'est pour lui, ça, c'était une chance de s'imposer, de mettre en valeur ses qualités, de rendre ses qualités importantes pour l'équipe. Mais vu que l'équipe se construit dans une autre direction depuis l'arrivée de Pochettino, avec un système avec généralement deux milieux de terrain devant la défense et une équipe qui va avoir beaucoup le ballon, enfin plutôt plus le ballon, et qui va essayer de jouer haut, donc qui va défendre sur des espaces assez importants, là ça le condamne à un rôle beaucoup plus d'utilité et de joueur qui va soit reposer les autres dans des matchs face à des équipes plus faibles et où il y a pas mal d'absents, soit de joueurs qui va rentrer les 10-15 dernières minutes pour essayer de tenir un score, de gérer les longs ballons d'une équipe adverse. Et voilà, ça, pour le moment, c'est vrai que c'est difficile de lui trouver une autre utilité. Ça reste important hein, comme rôle, parce qu'il faut les jouer, ces matchs-là, et les 15 dernières minutes des matchs où tu dois tenir le score, c'est clair. Mais c'est vrai que pour lui, c'est probablement pas la trajectoire qu'il espérait, et même à laquelle on pouvait s'attendre ou sur laquelle on pouvait se projeter quand il arrive. Parce qu'à la base, tu lui dis oui, est-ce que tu as recruté ton numéro 6, etc. Au final, c'est vrai qu'il a été un peu changé de poste au départ.
Pour son bien.
Probablement que le départ de Tourelle lui fait du mal, parce que sur le mois de décembre, il s'était imposé comme un titulaire et il avait joué tous les matchs sous Tourelle à chaque fois qu'il était disponible. Et que Tourelle avait même changé un peu de système aussi pour l'intégrer et le mettre dans d'autres dispositions. Mais c'est vrai que l'arrivée de Pochettino et la construction d'une équipe qui va dans une autre direction le condamne un peu. Et voilà, à court terme, c'est difficile de le voir passer devant les autres milieux pour ce double pivot dans lequel joue le PSG. Et ça, ça paraît évident. Et sur un match comme celui de Dijon, bah, tu le retrouves dans un contexte où il ne va pas être très à l'aise, où il ne va pas montrer beaucoup de qualité parce que l'adversaire en face n'attaque pas. Donc, il ne va pas forcément se montrer au duel ou dans la protection de la défense. C'est un match que tu joues dans le camp adverse. Donc, pareil, c'est pas non plus un match où il va gagner beaucoup de duels aériens, où il va soulager ses défenseurs centraux, faire du travail de couverture comme Marquinhos ou Kimpembe vont être appelés à jouer un peu les pompiers sur les côtés. Et c'est un match où tu as beaucoup le ballon. Donc, c'est un match où, malheureusement, sa faible créativité et parfois même sa maladresse ou sa mise en route un peu lente éclate un peu aux yeux de tout le monde. Dans un scénario, tu as besoin de mettre au contraire de pas mal de rythme. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est attendu et normal que sur un match comme celui-là, Danilo pêche un peu. Mais bon, si on peut utiliser au moins son apport sur coup de pied arrêté, c'est déjà ça, parce qu'après tout. Pour le coup, ça, c'est une vraie qualité forte qu'il a. Et c'était un peu désespérant en première mi-temps de voir le PSG tirer les corners à deux et essayer des combinaisons courtes, alors que tu jouais avec quatre défenseurs centraux sur le terrain, plus Danilo.
Ouais.
Heureusement, on a eu un éclair de lucidité à la fin pour le tirer sur la montagne.
Draxler a dit, bon allez, on va l'utiliser un peu, ce brave Danilo, il est monté jusque-là, on va l'aider. On nous signale qu'une personne t'imagine très bien en couple avec lui, Mathieu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais
Dieu m'en garde.
Non, on nous dit que Danilo est mauvais parce qu'il est détruit physiquement, c'était pas le cas de Krikoviak. Ah non, Krikoviak, le problème c'est qu'il s'est jamais intégré et puis
il était juste mauvais.
Ouais. Il était pas bon, mais Krikoviak avait des références quand il arrive, il est quand même titulaire à Séville qui vient de gagner l'Europa League, il avait fait des bonnes choses en Ligue 1. Non, faut pas le présenter comme un tocard, mais c'est vrai que ce genre de profil est pas très adapté à ce PSG là finalement. On verra si on ose en retenter un troisième, mais bon. On verra. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Bon, Omar, on va éviter de s'attarder sur Danilo. Je pense que Mathieu a fait le tour, hein, c'est bon. Puis bon, Simon a dit qu'on avait déjà on se rapproche des 40 minutes fatidiques, donc on va avancer. L'autre choix de Tourelle, oh là 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 là, excusez-moi, des années à en parler.
La titularisation de Ziyech, alors qu'est-ce que t'en as pensé?
Tu le conscient de Philo et le subconscient qui est.
Non, il va parler d'un joueur ramené par Tourelle, je vois pas en quoi il s'est trompé.
Ah, c'est un deuil difficile, hein. Que fait ce qu'il nous fait?
Ah non, mais en plus.
Ça passera pas.
Je vous explique pourquoi, parce qu'il y a une personne sur la live qui a parlé de Tourelle, et donc moi j'ai rappelé, j'ai lu ça à ce moment-là, donc j'ai fourché, voilà, c'est pas très grave. Mais attendez, j'ai 2 ans et demi avec Tourelle, c'est celui avec lequel on a fait le plus de podcasts, je vous signale, puisque Blanc, on est arrivé sur la fin, et Dieu sait que Lolo a été un membre mythique du podcast, mais voilà. Sur le match de Rafinha, qui était quand même donc enfin titulaire avec Pochettino, quand même, ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas été titulaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon match en général, encore beaucoup de travail. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu cette remarque où on disait, le problème de Rafinha, c'est qu'on a un peu l'impression de le retrouver quand il arrive au mois d'octobre contre Nîmes, quoi. Un bon joueur, mais qui n'est pas du tout prêt physiquement. Vous partagez peut-être un peu cette analyse? Je ne sais plus où je l'avais lu d'ailleurs. Je trouvais qu'il y avait un peu de ça, ouais. Oui, Simon?
Ouais, c'est un peu ça. Après, il faut le remettre dans le contexte du milieu de terrain où, pour le coup, on n'a pas trop débriefé la partie collective, tant Dijon était anti-compétitif au possible. Mais le milieu de terrain n'avait pas une structure très fixe, c'était très tournant en réalité. Tout le monde prenait un peu les positions de tout le monde avec quand même évidemment certaines tendances. Mais tu pouvais quand même voir Rafinha redescendre, Herrera monter, puis s'excentrer, Danilo pareil, Draxler qui venait faire un peu pareil, et aussi le milieu offensif depuis sa position plus à droite. Donc disons que dans ce contexte-là où il fallait un peu comme ça tourner, faire circuler le ballon, il a été plutôt intéressant. Après, comme tu dis, c'est un joueur qui est un petit peu un joueur de salon en ce moment, dans le sens où il manque de tranchant, il manque Il manque de rythme, il manque de beaucoup de choses. Et c'est peut-être pas un hasard de titulariser Rafinha et de finir avec 7 tirs, alors qu'auparavant, on avait des matchs, il y avait beaucoup plus de tirs. Là, c'était un peu le match, en remettant les choses un peu en perspective, un peu le match contre Lille. Alors, avec un niveau beaucoup moins élevé, même si Lille n'avait pas fait une grosse partie ce soir-là. Mais c'était pareil, un match où le PSG avait plutôt contrôlé, plutôt été avec une approche technique relativement loin du but. Et au final, tu tires presque pas. On avait peut-être tiré 8 fois pour un tir cadré. Voilà, on tire 7 fois pour 4 buts. Parce que l'adversaire te le permet et ton niveau de réussite te le permet. Mais c'est un peu ouais, ce joueur qui va manquer quand même d'allant offensif, de tranchant et de verticalité. Donc à voir comment ça évolue. Mais pour Pochettino, qui certes mise sur la technique, mais veut quand même une production offensive avec un certain rendement, quand même, un certain volume. Ça ne m'étonne pas que Rafinha ne soit pas le premier joueur mis sur la feuille de match. Quoi.
Bah, quand Verratti n'est pas là, en tout cas, ça paraît, c'est un peu ce qu'on met sur la live. C'est peut-être un peu trop juste pour être titulaire, mais en remplacement de Verratti, il est très bien. Quoi. Il a un peu cette capacité à connecter les autres, à redescendre quand il faut pour organiser. Lui,
au moins, c'est un footballeur et pas un spécialiste du maintien de l'ordre.
Simon. C'est tout de suite les grands mots. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi, un peu sur l'aspect vrai footballeur. Quoi. C'est vrai que au milieu de terrain, on avait vu est-ce qu'il aurait pu faire du bien face à Monaco dès le coup d'envoi, peut-être. Après, il n'avait pas les jambes ce jour-là, visiblement. Mais c'est vrai que quand il s'agit un peu d'initier des actions, c'est quand même un joueur qui sait y faire quand même. Quoi. C'est ça, qu'importe le niveau. Il m'a un peu rappelé le match qu'il avait fait en moins performant à Montpellier, comme ça, où en fait, globalement, je trouve qu'avec Herrera, les deux se complètent assez bien. Faut quand même leur reconnaître ça. C'est-à-dire, bon, déjà, comme ça, Herrera touche moins le ballon, donc c'est généralement plutôt une bonne chose. Et l'un et l'autre arrivent plutôt bien à se déplacer, à compenser. Et au final, Rafinha se met en évidence. Bon, alors, j'aurais pas jusqu'à dire que c'est grâce à Herrera, parce qu'il faut pas non plus abuser. Hein. Mais j'aime bien l'association des deux par rapport à ce que ça apporte, au moins au départ des actions. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que dans le dernier tiers du terrain, c'est pas forcément non plus un énorme spécialiste, même s'il fait deux passes qui sont quand même très utiles sur les deuxième et troisième buts. Mais voilà, vraiment, je trouve un vrai bon joueur de rotation. Et c'est quelque chose qu'on n'avait plus un peu depuis le départ de Lo Celso, globalement. Et rien que pour ça, c'est quand même un joueur précieux. Quoi. Je sais pas, Mathieu ou Omar, ce que vous avez pensé de son match. Rien, pas grand chose. Oui, Mathieu.
Omar veut vraiment en parler, ça fait 2-3 jours.
Ça lui tient à cœur.
Omar, vas-y, nous te soutenons.
On t'écoute, Omar.
Dis-nous ce que tu penses des hispanophones.
Non, tu veux me créer des problèmes. Non, honnêtement, moi perso, j'ai pas du tout une lecture positive du match de Rafinha.
Ah bah vas-y, pourquoi par contre.
Bah je l'ai trouvé. J'ai trouvé sa capacité à déséquilibrer vraiment très limite, notamment quand il part en conduite de balle. J'ai trouvé des passes qui manquaient de tension, qui étaient vraiment un peu trop faciles pour le joueur qu'il est supposé être dans les 30 derniers mètres. Et si le rôle de Rafinha, c'est juste d'exister dans la zone dans laquelle Herrera est capable d'apporter un peu plus, ben moi, pour moi, ça justifie pleinement la non-confiance que place en lui Pochettino, parce que ben on attend de lui de ce que ce soit un joueur un peu plus opérant dans les 30 derniers mètres, et c'est absolument pas le cas. Il fait ou pas il a pas trop fait progresser l'équipe, j'ai trouvé, de façon positionnelle et aussi dans ses décisions. Donc j'ai trouvé que c'était un match au final assez mièvre, et même la passe décisive qu'il fait pour Mbappé, je trouve, est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est au final une passe très simple à 2m50, non cadrée, non pressée, donc on peut pas s'en féliciter plus que ça, quoi. Et c'est un peu à l'image de son match, encore un match qui peut pas finir, probablement pour des raisons physiques, mais bon, c'est des soucis qui sont un peu récurrents concernant ce joueur. Donc qu'il soit aujourd'hui le 16e ou le 17e choix ne me surprend absolument pas, et je l'ai trouvé très très inopérant au final.
Tiens, on me dit par la conduite, il a quand même gagné 210 mètres, que c'est le record du match.
Donc... Ah, mais après, moi, l'équitation, les trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je,
ce genre de il a gagné.
Est-ce que 210 mètres, c'est mieux que 212? Je ne saurais pas te dire, tu vois.
Oh là là. Mathieu, tu comprends un peu les critiques et les réserves d'Omar sur la rencontre de Rafinha ou tu es peut-être un peu moins dur que notre ami?
Je suis moins dur en général avec le joueur. Je pense que je l'apprécie plus qu'Omar et Simon. Par contre, sur le match en lui-même de samedi, oui, c'est vrai que c'est un match où on a déjà vu Rafinha meilleur cette saison.
Oui, on est sur le live, on nous dit que le match à Lille, à Montpellier. Non, mais là, on parle vraiment du match de samedi. Hein. C'est pas le profil complet du joueur qu'on est en train de refaire. Voilà.
Non, mais voilà, si je devais résumer, ce serait ça. Pour moi, c'est un joueur qui peut être utile et qui l'a déjà été. Mais on sait ce qu'il va t'apporter, ce qu'il ne va pas t'apporter. Je pense que c'est un joueur pour rassembler l'équipe avec le ballon, c'est-à-dire multiplier les passes, se rendre très disponible, jouer beaucoup de passes courtes, etc. Et permettre à l'équipe de s'installer vraiment dans le camp adverse. Par contre, ce n'est pas un joueur extrêmement déséquilibrant parce qu'il n'a pas de dribble, il n'a pas une frappe de loin, il n'a pas un registre de passes qui va le conduire à tenter des choses plus difficiles ou plus risquées. Donc au final, c'est les matchs de milieu espagnol, si tu veux, avec un taux de réussite et une qualité, une disponibilité qui vont être constantes et qui ne vont pas forcément être dans le registre de la création vraiment d'occasion, dans la dernière passe ou dans le déséquilibre d'une défense qui est déjà bien placée. Mais malgré tout, en définissant ce profil-là, je pense quand même que ça passe pour Mbappé sur le troisième but. Je trouve Omar un peu dur parce qu'il faut quand même la mettre dans le bon timing et il faut la mettre aussi avec la bonne justesse. C'est-à-dire que Mbappé, il peut l'enchaîner ensuite en une touche, évidemment avec une qualité d'infinition qui est remarquable, mais il a la possibilité d'enchaîner une touche parce qu'elle lui arrive bien et sur le bon appui. Donc,
non mais après
je suis d'accord.
Je suis obligé de te répondre. Mais peut-être que notre ami
Pastore pour Cavani il y a quatre ans jour pour jour. Je suis d'accord.
On est d'accord. On est sur une autre classe de passe. Après peut-être que notre ami du live qui a les mètres là peut nous dire c'est une passe de combien de mètres. Parce que je pense qu'un bon U13 peut la faire. Un U13 d'un bon niveau qui a l'habitude de jouer en Île-de-France, il peut faire cette passe. Après si c'est tout ce qu'on demande à Rafinha, c'est un abaissement très clair de nos standards parce que c'est un joueur dont quand même la titularisation est appelée semaine après semaine comme quasiment un crime contre l'équipe parce qu'il joue pas.
Ouais, mais je regarde qu'il joue à sa place aussi, Omar, c'est ça aussi.
Je sais pas s'il est plus fort qu'eux, en fait. Moi, je me pose la question.
Alors que Herrera en 10, malgré tout, je pense qu'il a une utilité qui reste.
Moi, je pense qu'il y a des biais. Il y a des biais cognitifs qui, des fois, biaisent l'analyse, tu vois. Parce que Rafinha, il est forcément un peu plus attendu, un peu plus appelé, un peu plus joli dans ses tâches sur le terrain. Est-ce qu'elles sont vraiment efficientes? Ça, c'est un autre débat.
Bah, elles sont efficientes dans la mesure où il faut être conscient de ce que tu lui demandes ou pas. Faire le Di Maria ou faire le Neymar, il ne le fera pas. Être un joueur qui te garantit une certaine maîtrise technique quand Verratti n'est pas là, quand il y a des absents et que malgré tout sur des terrains où tu as une équipe en face qui t'attend et qui bétonne, va te permettre de malgré tout t'approcher du but adverse, même si après ça se traduit pas par du déséquilibre, par des décalages produits en grande quantité. Malgré tout, ça a son utilité et à la longue, en étant dans le camp adverse, les décalages ils apparaissent. Et même si je suis d'accord sur le match de samedi, c'est pas forcément sa meilleure prestation, mais on l'avait vu notamment face à Montpellier ou dans d'autres contextes où je pense que c'est un profil qui peut être utile. Après, que ce soit un profil pour être titulaire ou pas, ça c'est un autre débat. Je pense qu'il aurait peut-être un joueur qui a perdu avec le départ de Tourelle puisqu'il était un peu en balance dans le 5-3-2 pour jouer le rôle de troisième milieu de terrain ou de troisième attaquant, c'est selon, avec Di Maria. Et Neymar Mbappé qui serait seul en pointe. Là, c'est sûr que c'est plus difficile la façon dont s'est créée l'équipe. On sent qu'il passe plus derrière Verratti dans la position numéro 10 quand Neymar n'est pas là. Et forcément, le double pivot, tu vas avoir à côté de Paredes qui est devenu intouchable, parce qu'il n'était pas sous la précédente gestion. Tu vas avoir un profil forcément plus défensif comme Gaël Herrera. Donc forcément, c'est un joueur qui a un peu reculé dans la hiérarchie, mais qui malgré tout garde sa cohérence ou sa pertinence, on va dire, dans un effectif. Je pense que sur certains matchs, c'est un joueur que tu peux utiliser. Après, d'accord, peut-être que parfois on va un peu loin en le réclamant absolument titulaire, en faisant le joueur qui va forcément te régler beaucoup de problèmes structurels ou merveilleusement remplacer les absents qui ne sont pas remplaçables. Pas forcément non, mais ça te permet de garder un certain niveau technique et de qualité sur le terrain, ce qui malgré tout n'est pas forcément donné, ce qu'on n'avait pas sur les dernières saisons quand il te manquait autant de joueurs de ce calibre-là.
Ouais, après,
au-delà de son profil et de ses qualités intrinsèques, son état de forme est quand même un peu préoccupant, dans la mesure où en France, les gens l'avaient pas beaucoup vu jouer. Pas un joueur très connu, c'est pas un joueur qui... Une des journaux, on parle quand même d'un joueur qui a été capable de jouer ailier droit dans une équipe de Liga qui était très modeste au Celta l'année dernière. C'est quand même un poste où certes il jouait dans son registre, mais qui était relativement exigeant dans toutes les tâches que ça peut demander, sans ballon notamment, avec ballon aussi. Et là au PSG, c'est quand même un joueur que tu verrais pas du tout assumer un travail côté droit par exemple. Donc cet état de forme-là, à quel point est-ce qu'il est handicapant, à quel point il est anormal et à quel point ça peut se régler, je ne sais pas du tout, et ça laisse quand même des interrogations. Mais au moment donné, si les joueurs jouent pas, c'est pas que du hasard ou de la méchanceté, quoi.
Ouais. Après, moi je trouve que dans le cas de Rafinha, enfin, on parle là titulaire, tout ça. S'il y a une équipe type du PSG, je pense très clairement qu'il est pas dedans, par exemple. Mais pour être titulaire en Ligue 1 dans ce genre de match où la première difficulté c'est de passer la première ligne de pression adverse, où il faut être fiable techniquement justement pour faire avancer le ballon, où il faut être capable d'alimenter un peu tes attaquants, même après sans que ce soit forcément des passes, des créations d'occasion comme Neymar ou Di Maria sont capables de le faire, mais vraiment faire peut-être l'avant-dernière passe justement, c'est typiquement ce qu'on lui demande de faire, et il le fait très bien, je trouve. C'est vraiment pour moi le... Il est dans ce registre un peu de... Peut-être pas de créateur bas sur le terrain, mais un peu de... Un peu de Verratti du pauvre, quoi. Et c'est pas
du... De Lyon.
Ouais, c'est ça. Il donne du Lyon. Il le fait mieux que ce que le font Herrera, par exemple, Gueye ou Danilo, qui ont d'autres qualités que lui, hein. Je pense notamment, ils défendent mieux que lui, même si Rafinha a des stats de ballon récupéré qui sont plus intéressants, plutôt intéressantes, mais c'est pas non plus que ça, défendre. Et voilà, c'est... Moi, c'est typiquement ce que j'attends de lui. Franchement, pour moi, Rafinha, c'est le joueur titulaire des matchs de samedi à 17h. Quoi. C'est pas forcément le joueur des matchs du dimanche à 21h, parce que bah, c'est pas forcément les mêmes adversaires, on connaît un peu ses limites. Mais le samedi à 17h, c'est typiquement le joueur où tu sais que tu pourras compter sur lui, où il va t'amener une qualité technique dont tu as aussi besoin sur ton banc de touche. Il est toujours volontaire et globalement bien vu. Ben voilà, c'est bien, il est dans son rôle, et après c'est vrai qu'il faudrait qu'il regagne un peu en capacité physique, parce que là il est un peu juste, et quand on me dit qu'il serait titulaire dans tous les clubs de Ligue 1, non je regrette, Rafinha il n'est pas titulaire à Lyon, il n'est pas titulaire à Lille non plus.
À Monaco il joue pas.
À Monaco je pense que par rapport à Tchouaméni, Fofana, il n'a pas leur volume.
Ben voilà, mais là tu compares aussi avec des équipes qui ont des projets de jeu totalement différents, et c'est vrai totalement. Que Rafinha c'est un joueur qui a un profil très particulier, sans aller dans la caricature, c'est typiquement le joueur barcelonais.
Oui, mais c'est ça.
Ça se voit, et... forcément,
c'est un projet de jeu d'un autre âge, en fait.
Peut-être, mais après, c'est vrai que c'est forcément, il ne rentrerait pas dans le style de jeu de Monaco, ça, c'est une évidence. Peut-être Lyon, mais bon, c'est vrai qu'ils ont d'autres profils aussi qui peuvent faire l'affaire et qui sont aussi d'un très bon niveau.
Tu cites Lyon, est-ce que Rafinha est meilleur que Paqueta?
Tu sais, Paqueta, moi, je me souviens qu'on en a parlé dans un podcast l'an dernier, sans doute.
Oui, il était à la rue.
J'en disais plutôt du bien, et je me souviens les commentaires en disant ouais, tout le monde en parlait très mal, hein, de joueur. Donc c'est vrai que le joueur, si on avait pris Paqueta sur sa dernière période au Milan, j'aurais bien aimé voir les réactions, parce que je pense pas qu'elles auraient été forcément très positives. Et à voir si lui aurait eu un rôle au PSG, il serait parvenu à se relancer dans un rôle vraiment de remplaçant au milieu. Donc ça, c'est vraiment notre. C'est difficile de calquer, hein, les situations d'un joueur dans un club à un autre, le contexte PSG c'est pas forcément le même, et non, pour moi Rafinha ça reste un joueur utile, un joueur titulaire non, parce que de toute façon Pochettino a construit l'équipe dans une autre direction, comme l'a dit Simon, il a construit l'équipe dans une direction qui est moins celle de vouloir la maîtrise par la position et par la possession comme le voulait Tourelle, de défendre en ayant le plus possible le ballon et en limitant les contre-attaques. C'était exacerbé en plus sous Tourelle, parce que je pense qu'il jugeait l'effectif pas prêt physiquement. Et donc, il voulait pas l'exposer à des contre-attaques et à une trop grande partie du match à jouer en défense. Ça, il voulait l'éviter. C'est pour ça qu'il est passé à 5. C'est pour ça qu'il a blindé le milieu et qu'il a aussi multiplié les plans de jeu où l'idée était d'abord de garder le ballon. Après, Pochettino, il va dans une autre direction. Il va dans un style peut-être plus direct où tous les attaquants jouent ensemble, où tu rajoutes un numéro 9. En plus des créateurs qu'on a habituellement sur le terrain. Donc, forcément, c'est un autre type d'équipe où tu as peut-être moins besoin d'un, d'un joueur qui va plus chercher à garder le ballon et à multiplier les passes dans le camp adverse que de joueurs qui sont plus directs et qui vont se rapprocher plus rapidement du but adverse. Ça, mais après, c'est des styles d'entraîneur et c'est des différences de projet de jeu. C'est pas forcément lié à la qualité ou à l'utilité du joueur qui, par ailleurs, peut trouver sa place même en tant qu'alternative et en tant que remplaçant.
Après, oui, sur le live, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé Omar très dur, forcément. Mais on est tous d'accord pour dire que ça reste un joueur utile, clairement. Et puis, autant il y a des joueurs, on a parlé juste avant d'Anilo, dont on peut douter de la place au PSG, autant Rafinha, même en joueur de complément.
Enfin, c'est pas juste un toys, quoi.
Voilà. Non, mais c'est pas un toys, non, voilà. Il est pas là pour servir des cafés à Neymar le matin, quoi. C'est quand même un joueur qui a rarement déçu, mais dont on n'a pas non plus attendu énormément. Après, c'est vrai que l'attente qui est parfois démesurée le concernant peut un peu faire tiquer, mais bon, c'est pas. Je sais pas, moi je trouve que pour un joueur gratuit, il est franchement pas mal. Ouais. Il y a un peu de ça, quoi. Faut pas oublier qu'il n'a pas coûté grand chose, il est toujours de bonne humeur. Voilà. Il fait vraiment, je trouve, partie des très bons joueurs de complément de l'effectif. Et puis bah. Faut pas en attendre trop, c'est tout, quoi. Mais après, bon, il n'y a pas de quoi le. S'il pouvait. Enfin, faut quand même le dire. S'il avait plus de physique, s'il avait plus de talent dans le dernier tiers du terrain, un peu plus de ci, de ça, le Barça l'aurait pas lâché contre 0 euros alors qu'il a 27 ou 28 ans, quoi, c'est tout. Ça reste un bon joueur. Puis là, on a vu que le Barça n'est pas forcément très bien géré, mais c'est. Voilà, c'est comme ça. C'est pas non plus un méga crack. Il a quand même été international brésilien et c'est pas n'importe quel maillot. Puis il faut l'apprécier comme il est, même si c'est vrai qu'il manque peut-être un peu aujourd'hui d'envergure physique, notamment pour être peut-être un peu plus que ce qu'il a été à une époque, quoi. Voilà. On me dit sur live, si on avait que des joueurs de complément comme lui, on serait certainement pas troisième de Ligue 1. Totalement. À voir, mais bon.
On serait plus bas.
Non, t'es terrible, Omar.
Mais je pose la question, j'ai pas compris, c'est pour.
Et toi, t'as vraiment aimé le milieu Gay Paredes Herrera la semaine dernière, en fait. Parce que je me souviens qu'on avait fait le débat et t'avais tout mis sur la charnière, et rien sur le milieu la semaine dernière.
Écoute, Omar, si Ander t'a invité à la maison, tu peux le dire, hein, voilà.
On est loin des passes démagogiques d'Ander Herrera du début. Le retournement de veste total.
Ander Herrera qui a brillé à Dijon, attention. Écoute. Quand il se retourne et il envoie une passe entre les lignes pied gauche, j'ai dû me frotter les yeux, perso.
Écoute, à Dijon, permet de nombreux miracles. Qu'est-ce que je te dise le joueur à côté de lui, Dina et Bimbe, hâte qu'il revienne. Bah ouais, moi j'avoue que pauvre, j'étais un peu déçu du match de Eric samedi. Donc Dina et Bimbe est prêté par le PSG à Dijon, qui va probablement pas l'acheter vu qu'ils vont couler en Ligue 2 et qu'ils n'auront pas les moyens. Mais bon, c'était un peu déçu. Bref, on verra. On nous dit que Rafinha doit être moins payé qu'Ander Herrera. Bah oui, ça, des joueurs moins payés qu'Ander Herrera, il y en a beaucoup, alors que des joueurs meilleurs que lui, il y en a encore plus. Donc oui, forcément, Ander Herrera est arrivé libre et a un très bon contrat. Ce qui a d'ailleurs été un problème, mais c'est comme ça. Après, il a bien négocié, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, malheureusement, les salaires ne reflètent pas toujours la réalité du terrain. Et d'ailleurs, il y en a un dernier dont on doit parler, dont le salaire a souvent été un problème. Comment allez-vous, Julian Draxler ? Qu'est-ce qu'on pense du match de Draxler ? Est-ce qu'il s'est mis à courir parce qu'il a un contrat à aller chercher ou pas, alors ? C'est quand même un peu la grande thèse du moment. Que Jules, comme il était appelé par le prédécesseur, est un joueur qui se motive un peu quand il en a envie. Je sais pas, qu'est-ce que. Déjà, pour moi, il y a un premier point à souligner, c'est quand même qu'il est quand même passé devant Sarabia. C'était pas forcément évident il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qu'on pense du match de Draxler ? On dit sur live Draxler out. Mais non, aujourd'hui, il y a quand même dans la semaine.
Comment ça ? Mais non, mais si.
Non, mais dans la semaine, il y a quand même eu. Tourelle, eh mais c'est pas possible. Trop là, je suis désolé. Pochettino qui le titularise et Leonardo qui dit que peut-être finalement la prolongation de Draxler, faut en parler, etc., etc. Je sais pas, c'est quand même un sacré retournement de situation par rapport au mois de janvier où il a pas joué pendant tous les matchs. Qu'est-ce que vous en pensez ? On me dit c'est l'ode à la fainéantise. Tiens, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé de Julian et de sa situation
en général ? Pourquoi moi sur la fainéantise ?
Parce que t'étais le seul qui avait le micro ouvert, en fait, c'est pour ça.
Pas de soucis. Bah, Julian, en vrai, il fait un bon match dans le ton du match. Après, lui, on va pas refaire 110 fois le débat. Le problème, c'est que dans sa tête, il a arrêté un peu, voire beaucoup, d'être un footballeur professionnel et que ça a causé des problèmes sur son niveau. Et ça fait pas 6 mois ou 1 an, c'est depuis les 4 premiers mois où il est arrivé. Qu'à un moment donné, avec des périodes plus ou moins difficiles par la suite, il est vrai. Donc non, après là, dans ce rôle un peu plus avancé, où on voit mieux ses qualités, je trouve, que quand il joue plus bas, je ne l'ai pas trouvé inintéressant du tout. Après, si on doit vraiment lancer le débat, est-ce qu'on offre 3-4 ans de prolongation à Julian? Non, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. De toute façon, ce n'est pas des questions qui se tranchent ou qui se lancent trop, vu le moment qu'on vit. Là, on n'est que le 1er mars, donc à mon avis, il y aura encore pas mal de semaines pour décider un peu quel cap la direction sportive veut donner à la saison prochaine. Donc non, je pense qu'il ne faut pas faire les débats quand c'est ni le moment ni le lieu. Donc non, un bon petit match de Draxler où il a joué ailier droit, ça faisait longtemps, mais après ça ne voulait pas dire grand-chose de position vu le niveau de liberté pour ce genre de joueur qui évoluait dans une zone plus au milieu. Donc non, vraiment pas grand-chose à dire non plus en réalité. Après, si pour 2 rencontres correctes et une bonne entrée au Camp Nou, on va lui filer 4 ans de contrat, écoutez, pourquoi pas, hein, plus rien ne peut nous surprendre.
Kurzawa que t'as défendu souvent.
Lui, il avait même pas l'air d'être un entrée au Camp Nou. Générationnel, Mathieu, c'est pas pareil, quand même.
Non, sur le live, on nous dit qu'il faut lui donner des contrats au mois par mois à Draxler. Ça peut être effectivement une situation. Il
faut lui faire faire des piges. C'est-à-dire qu'il va habiter dans le 7-7 pour gérer son resto avec sa meuf, qui est une activité tout à fait respectable. Et de temps en temps, quand on a besoin, il dit, bon, bah, là, tu viens, tu vas te payer 800 euros, voilà. Et puis, on te rappelle dans 3 semaines. Il faut que tu fasses de l'intérim, en fait.
Mais ça peut être une bonne idée. Je ne sais pas si au final, on le prolongera ou pas, mais c'est peut-être une bonne idée de lancer comme ça en l'air l'idée d'une prolongation, parce qu'on se doute bien que Draxler, il attend que ça. C'est probablement sa stratégie de faire une Kurzawa et de gratter une prolongation à une extrémiste comme ça. Du faire miroiter, malgré tout, ça peut peut-être... le pousser à être performant sur la fin de saison, et malgré tout, on aura besoin, vu qu'on a souvent des absents sur le plan offensif, et ça reste un joueur de talent dont que tu peux utiliser. Donc si ça peut faire effet de carotte et de motivation pour l'avoir à un bon niveau sur la fin de saison, parce qu'il a envie d'aller décrocher sa prolongation, ben ma foi, ça sera une bonne stratégie et une bonne idée que d'avoir lancé cette idée.
Tu es machiavélique, Mathieu. C'est incroyable.
Parce que tu crois que Leonardo l'est pas?
Ah, mais c'est totalement.
Ça m'étonnerait même pas que ce soit lié à ça. Après, non, c'est vrai qu'il y a aussi des arguments économiques pour le prolonger. Des arguments sportifs qui le sont peut-être un peu moins, et notamment quand tu as la nécessité peut-être de renouveler tes remplaçants et d'avoir des joueurs qui poussent un peu plus les titulaires. Enfin bon, ça, on fera un débat sans doute quand on le prolongera ou pas. Mais sinon, quant à Draxler, je pense que c'est important quand même qu'il ait du rythme, qu'il fasse quelques matchs. Parce que tu as besoin d'avoir des remplaçants offensifs qui sont capables d'entrer dans les rencontres et qui peuvent t'aider et t'apporter. Parce que, mine de rien, Sarabia, visiblement, il a été quand même très, très amoindri par le coronavirus. Et ses performances cette saison ne sont pas bonnes, le sont nettement moins que ses 6 premiers mois à Paris où il réussissait à avoir un impact quasiment à chaque fois qu'il jouait. Là, c'est beaucoup moins le cas. Donc, tu dois réussir à avoir un autre remplaçant que tu peux utiliser sur le terrain. Donc, ok, t'as Moiskin, mais Moiskin qui est amené aussi à jouer quand Neymar est pas là. Comme tu joues avec 4 offensifs, forcément, il y a plus de temps de jeu à distribuer pour les joueurs offensifs. Mais t'as aussi besoin de Draxler et c'est bien de le voir enchaîner les matchs. Après, quant à la réalité de son match samedi, pareil que Rafinha, je pense qu'il faut peut-être pondérer et on a déjà vu Draxler meilleur. Et je pense que là où Draxler doit plus se faire violence, c'est que il a un impact sur les résultats et sur les scores qui est beaucoup trop faible. C'est un joueur qui n'arrive plus à être décisif depuis trop longtemps. Je crois qu'il avait, l'an dernier ou il y a 2 ans, il avait enchaîné quasiment 10 mois consécutifs où, avec 0 but, 0 passes décisives en Ligue 1, des choses comme ça. Et là encore, enfin, même sur des matchs comme ça, 4-0, des matchs hyper faciles, il doit avoir un impact plus grand sur le score. Et voilà, c'est peut-être là où se situe pas la marge de progression, parce que c'est un joueur qui évoluera peu à ce niveau-là, mais où doit se faire peut-être plus violence. C'est-à-dire que typiquement le genre de match qu'on joue face à Bordeaux après-demain, où il va te manquer tous tes joueurs offensifs qui scorent, Di Maria, Neymar, Mbappé, peut-être Icardi.
Bon, il sera là, Icardi sera là.
T'as besoin, si Icardi est là, tant mieux, mais t'as besoin quand même que Draxler forcément prennent les rênes du jeu, mais aient un impact sur le score, qu'ils soient proches du but, qu'ils réussissent à marquer, à faire des passes décisives, et ce qu'il arrive à faire de façon trop discontinue quand il est sur le terrain depuis trop longtemps, malheureusement, depuis qu'il a amorcé cette transition comme milieu de terrain. C'est-à-dire que tu as l'impression comme il est considéré maintenant comme un milieu, il ressent plus la responsabilité de devoir être décisif et de devoir marquer. De toute façon, sur le terrain, il y a toujours beaucoup de joueurs qui font les stats à sa place. Mais là, pour le coup, sur un match comme mercredi, tu auras besoin que lui soit plus décisif à ce niveau-là. Et comme disait Laurent Blanc, un joueur offensif, on le juge d'abord sur ses buts.
Et on cite souvent Laurent Blanc parce que, attention, ça reste un grand spécialiste des déclarations.
Notre guide pour toujours.
Ah, il restera un personnage marquant du PSG en tout cas. Non, sur Draxler, il y a un truc qu'on... Effectivement, on a parlé de son apport, tout ça, de son réveil un peu. Moi, je trouve qu'il y a quand même un point qui a souligné, c'est que visiblement, Pochettino lui fait confiance en fait. Le principal point, je trouve, concernant Draxler, c'est vraiment le fait que Pochettino a l'air de croire en lui, de lui faire confiance, de lui donner du temps de jeu, de... C'est ça un peu qui, je trouve, change le plus de choses. Alors, c'est sûr qu'il s'est peut-être un peu remis au travail, parce que comme tu l'as dit, Mathieu, il rêve que d'une chose, c'est de prolonger à Paris, parce que, globalement, là, aujourd'hui, les clubs qui sont sur lui, Leverkusen, Hertha Berlin, Arsenal, Galatasaray, autant dire que, bon, en termes de prestige, ça va lui faire tout drôle. Et puis, quand il va faire le tour des boîtes de nuit de Leverkusen, à mon avis, il va vite se dire j'étais mieux à Paris, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment... ce qui change peut-être dans le dossier, c'est le fait que Pochettino a l'air de vouloir lui donner du temps de jeu, je trouve. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est que Pochettino a l'air de vouloir le relancer, tout simplement, quoi. Parce que là, autant au mois de janvier, il joue pas, je pense que c'est comme Gueye, c'est lié au mercato. Savoir, bon, on les a mis de côté au cas où ils veuillent se barrer, on sait jamais. Depuis qu'on a fini le mercato, il a commencé à le refaire jouer. Il l'a quand même titularisé contre Nice. À Caen, de mémoire, il est encore titulaire. Là, il rejoue encore. Il l'a fait rentrer au Barça pour 20 minutes. C'est lui qui remplace Verratti, si je ne me trompe pas. Bon, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de signes qui vont en faveur de... Peut-être pas d'une prolongation, ça je ne sais pas exactement, mais dans le fait que Pochettino a l'air de vouloir donner sa chance au joueur. À quel point ça peut être une bonne chose, on dit, moi aussi, je veux le relancer sur le périph, mais... Voilà, bon, après, c'est vrai que c'est dur de ne pas voir dans ce léger regain de Draxler la fameuse contracteur de NBA, savoir le joueur qui se bouge parce qu'il a un contrat à aller chercher, quoi. C'est là où c'est dur de l'évaluer, parce que est-ce qu'il se bouge parce que il a un nouveau coach, ou est-ce qu'il se bouge un petit peu parce qu'il se rend compte que dans 4 mois, le salaire parisien s'est terminé et qu'il n'est pas prêt d'en retrouver un pareil, quoi. Même si c'est vrai qu'en tant que joueur libre, il peut espérer quelque chose, mais... Je sais pas, j'avoue être très dubitatif sur son cas. Pour moi, la seule chose qui pourrait un peu le sauver, c'est si Pochettino croit en lui et veut le prolonger, à ce moment-là, moi je suis plutôt d'avis de faire confiance, de donner au coach ce dont il a besoin. Et tant pis, quoi, même si, bon, on verra, on sait très bien qu'avec Draxler, s'il décroche encore complètement mentalement, ça peut être très long à relancer, quoi. C'est pas... On sait que mentalement, c'est pas un joueur fiable, quoi. Malheureusement, c'est ça depuis le début de sa carrière. En termes de talent, il a pas grand-chose à envier à grand monde, mais en termes de mental, par contre, c'est... Bon, on a vu des chips qui se battaient plus, quoi. Donc, je sais pas, Omar, ce que tu penses du joueur. Comment l'imaginer? Comment le voir pour la suite de la saison, en fait?
Non, c'est un joueur qui a une belle technique. C'est un joueur de complément qui peut apporter à cette équipe, comme d'autres. Voilà, qui n'ont pas besoin de faire énormément de stats pour être là. En plus, il a l'air sympathique et apprécié. Non, c'est une prolongation qui fait sens sportivement dans ce que fait le PSG en ce moment. Donc, je vois pas pourquoi ce bon Julian s'en irait quand d'autres sont là et sont bien. Donc, non. Il a le niveau technique pour rester au PSG. Il a un niveau de production qui correspond à ce que sont les standards d'un joueur du PSG. Donc, non, moi, je trouverais sa prolongation vraiment, vraiment très légitime sur ce qu'il monte depuis 10 jours.
Affaiblir le niveau technique des taureaux, c'est jamais bon.
Voilà, c'est important. Et puis, comme tu l'as dit fort justement, Philo, voilà, il travaille dans le CHR, il a un restaurant. Moi, c'est une confédération que je soutiens. Donc, voilà, je suis pour Draxler.
extraordinaire. La meilleure tirade sur Draxler et ce résumé des 10 derniers jours qui vaut pour les 30 derniers mois, c'est ça? Parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'il n'est pas en train de bouger grand-chose.
Si tu peux être milieu offensif, jamais aller dans les 30 derniers mètres, jamais faire une bonne passe, et que tu as le droit d'être au PSG, moi je suis en ligne avec ça. Donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'il peut rester.
Il peut rester. En plus, il n'est pas trop vieux. Tout. Il est en pleine force de l'âge à 27 ans, bientôt 28. Dans septembre 93, donc on va lui laisser encore un peu de temps. Bon, vous avez l'avis d'Omar, très incisif sur nos remplaçants en général. Bon, on a fait le tour, je pense, sur PSG Dijon. C'est bon, on peut passer à autre chose. On va arrêter. Sur la... Non, Mbappé, Kim, tout ça, on n'a pas grand-chose à en dire. Le premier match de Michu, bon, voilà. On est d'accord qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Est-ce que, concernant, on va parler de la course au titre, puisque c'est quand même le grand intérêt de la fin de saison. On a pour une fois une course au titre assez extraordinaire qui s'annonce. Le PSG a fait la bonne opération du week-end, puisque Lille a été contraint au match nul, combien il y a, je me souviens, un partout face à Strasbourg, qui aurait même pu perdre. Les pauvres Lillois, ils s'en sortent bien. On vous signale plutôt une entrée absolument scandaleuse, mais scandaleuse, du dénommé Diallo de Strasbourg. Monsieur Diallo, vous avez 2 points qui sont de votre faute, que Strasbourg aurait pu prendre. Non, mais voilà, donc Lille a fait 1-1 et Lyon a fait aussi 1 partout à Marseille, aurait même pu perdre avec Paqueta qui se fait expulser, je crois, autour de la 65e, 70e. Donc bon. Ça a un peu confirmé ce qu'on disait la semaine dernière. Monaco a gagné 2-0 contre Brest. À savoir que Monaco a globalement fait le meilleur match des 4 parce qu'il y a 2-0, mais l'Arseneur fait un match monstrueux. Lille a une nouvelle fois confirmé ses énormes difficultés à domicile face aux équipes renforcées. Lille a beaucoup perdu sur la semaine écoulée quand même entre la sortie en Europa League et ce nouveau match nul à domicile. Il y a désormais plus que 4 points d'écart entre Lille et Monaco. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette journée de championnat, cette course au titre, notamment sur ce qui s'est passé, le point du week-end là, que je viens de faire. Est-ce que Paqueta sera suspendu contre le PSG? Non, Paqueta, entre les deux matchs là, en Ligue 1 et en Coupe de France, il aura largement purgé ses rencontres. Qui veut parler sur là, un peu ce qui s'est passé ce week-end, qui a pu regarder les matchs? Simon, Mathieu, Omar, maintenant que j'ai un peu présenté les résultats. Vous battez pas, hein, surtout. Oui, Omar.
Non, mais parce que je rigolais, parce que je sais que Mathieu, il a absolument rien vu de ce dont tu parles.
J'ai vu l'Inter Atlético dimanche.
Je dois avouer avoir vu la bagatelle de 0 minute de ce match.
Et donc, forcément, je suis le seul à avoir vu Lyon-Marseille.
Très, je fais pas la course au titre avec Simon. Je regarde pas du tout nos concurrents.
Qu'est-ce que vous voulez dire, en vérité, j'ai vu Paqueta se faire expulser pendant ma pause et j'ai bien rigolé. Voilà.
Non, mais sur le live, on nous dit que Lille va pouvoir... Enfin, ouais, vas-y, Omar. Après, je reprendrai le live. On va beaucoup parler avec les gens du live parce qu'eux, ils suivent la Ligue 1, contrairement à ceux qui font pas leur devoir de vacances. Oui, Omar.
Non, comptablement, tu as du coup 4 équipes qui se resserrent. Après, si tu regardes les dynamiques collectives du moment, Monaco a vraiment une bonne gueule parce qu'en plus, maintenant, les points viennent du banc. Et ça, quand t'es dans un sprint, c'est bien d'avoir un groupe élargi qui sont capables de, même dans des matchs où tu tombes face à un gardien en état de grâce, de trouver des solutions en peu de minutes. Et c'est vrai que quand tu regardes le banc de Monaco, on s'intéresse rarement à nos adversaires, mais il y a des joueurs de grande, grande, grande qualité. Enfin, avoir un joueur comme Jovetic comme joker, c'est un luxe que, par exemple, Lille n'a pas ou peu aujourd'hui, tu vois. On voit que l'absence d'un joueur comme Bourak, elle est difficile à encaisser pour eux. Quand justement ils jouent face à des blocs un peu plus bas, lui, ils ont pas ce point de fixation devant qui leur manque. Voilà. Moi, je reste convaincu qu'on est quand même l'équipe la mieux armée pour le titre, parce qu'on est capable de se rendre des matchs faciles à une hauteur dont Lyon, Lille et Monaco sont pas encore capables. Bah, c'est ce qu'on a vu samedi. Donc maintenant, il faudra faire carton plein sur les deux semaines qui vont probablement décider un peu fixer les positions, parce que tout le monde va se rencontrer à ce moment-là et on va pouvoir être fixé. Mais en tout cas, je sais qu'il faut pas donner trop d'importance aux symboles que les joueurs envoient sur les réseaux sociaux, mais ça paraît être clair pour tout le monde qu'on est dans un sprint de 12 matchs et que du coup les rencontres de Ligue 1 seront pas galvaudées par les uns et les autres.
Non, oui, tu as raison de le signaler. Oui, côté parisien, il y a surtout les Français, j'ai l'impression, Mbappé, Kimpembe, je sais pas si tous les Sud-Américains notamment se rendent bien compte de la valeur du titre de champion, mais en tout cas, il y en a quelques-uns, Verratti aussi, mais bon, Verratti c'est presque un Français maintenant. On a vraiment l'impression que une partie de l'effectif parisien, au moins, on verra si c'est le cas de tous, hein, mais sont vraiment concentrés sur ce titre et pas question de le laisser passer, quoi. Le discours de Mbappé, notamment, est quand même très fort à ce niveau-là. À savoir, on parle d'un joueur qui aujourd'hui pourrait, sur l'année 2021, pourrait plus parler du Ballon d'Or que de la Ligue 1, quand même, parce que bon, c'est que le début, mais il a quand même marqué très fortement les esprits sur la pelouse d'un club dont les dirigeants sont corrompus jusqu'à la moelle. Et là, il est quand même en train de dire « Ouais, non, le titre, il n'y a pas moyen qu'il m'échappe » et tout ça, quoi. Bon, c'est sûr que quand voilà, Neymar qui nous parle des albums de ses potes après avoir paumé 2-0 à la maison contre Monaco, c'est moins ça. Mais on verra, écoutez, on n'en est pas encore là. C'est vrai qu'Mbappé, il n'a pas trop l'habitude de ne pas gagner la Ligue 1. Et puis, il a aussi des titres à aller chercher, meilleur buteur, possiblement meilleur joueur, à voir. Sur le Monaco, effectivement, sur le live, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Monaco, qui a l'air très fort. Monaco est sur une série, ça doit être, je crois, 10 victoires et 2 matchs nuls sur les 12 dernières rencontres. En France, il y a aussi un tour de Coupe de France au passage, mais il y a quand même Monaco très très impressionnant. Et après, Monaco a quand même un vrai souci. C'est... Omar, tu as parlé effectivement de la qualité du Ventoux, c'est que Monaco part de très loin. C'est-à-dire que même en ayant une série aussi monstrueuse, Monaco n'est toujours même pas sur le podium. Et encore à 4 points de la tête. C'est-à-dire qu'au mieux, ils seront en tête en ayant tout gagné pendant... ça fera dans 12 ou 13 journées d'affilée à la 29e ou 30e journée, quoi. Alors ils peuvent aller au bout parce qu'effectivement, ils ont un vrai banc de touche, tout ça. Mais Monaco, je pense, risque de payer à un moment ou à un autre son début de saison qui a été coussi-coussa parce que... forcément, nouvel entraîneur, une équipe à relancer, c'est pas rien, quoi. Après, il manque peut-être aussi un peu d'expérience, mais des quatre équipes du week-end, c'est encore la SM qui a fait la meilleure impression parce qu'il gagne 2-0 vu que l'Arsenal fait le match de sa vie. Mais comme on dit sur la live, Monaco a vraiment apparu très très fort, hein. Une équipe qui offensivement commence toujours bien tourné, mais je trouve qu'il s'est vraiment amélioré défensivement pour le coup. Je sais pas, Omar, si tu as pu regarder Monaco-Brest, mais il y a vraiment eu, ils leur ont roulé dessus littéralement. Pour ceux qui ont regardé, c'était assez impressionnant.
C'est un match totalement maîtrisé. Et en effet, si c'était Cibois à la place de l'Arseneur, ça aurait fait une goléade pour Monaco. Après, je pense qu'ils vont avoir, là, il y a Mathieu qui partage le calendrier des Monégasques. Strasbourg qui va un peu être le maître étalon des équipes dans leur capacité, entre guillemets, les faire chier avec ce bloc bas et cette capacité à marquer. Donc, on va voir. Après, il faudrait voir combien de points ils ont repris aux trois équipes Monaco depuis 2021. Ça doit être assez impressionnant parce que je crois qu'en novembre, quand on les joue, ils doivent être à la 7e ou la 8e place. Donc depuis, ils sont quasi inarrêtables, même dans des moments où Ben Yedder marque un peu le pas. Donc c'est ce qui fait dire qu'ils sont dans une super dynamique. Après Lyon, collectivement, hier, pendant les 35 premières minutes, c'était vraiment très 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 fort. Moi, ils m'ont vraiment pour le coup impressionné. Je les pensais pas capables d'avoir autant de maîtrise, autant de variété dans les attaques, autant de justesse technique. C'était vraiment vraiment impressionnant. Après, Lille peut-être que ça calera. Après, ils ont des joueurs un peu plus fantasques, tu vois. Donc non, c'est vraiment, j'aime bien la période de Ligue 1 qu'on est en train de vivre parce que En plus de la lutte pour le titre, c'est quatre équipes qui ont des styles et des personnalités très très différentes, ce qui rend les matchs à suivre plutôt sympa parce qu'il y a de la vraie maîtrise.
J'ai hâte, je ne sais pas quand il est le Monaco-Lille ou le Lille-Monaco, mais ça peut être un match très intéressant des deux côtés.
C'est dans deux, c'est dimanche prochain, non?
Non, parce qu'il y
Dimanche
a Coupe de
14.
France. Donc
Ah, c'est
c'est.
dimanche ou dimanche
Ouais, voilà.
d'après. Ouais, c'est le dimanche d'après, pardon.
Ouais. Après, je me demande un peu ce que ça va donner. Pareil, les Lyon-Monaco. Autant, bah, là, nous, on ne rejouera plus Monaco, donc on va voir. Mais j'attends vraiment de voir Monaco face aux autres. Gros du championnat, sachant que maintenant, Kovac, il a beau nous dire, oh non, le titre, c'est pas pour nous. Les gars, vous avez la pancarte autour du cou comme les autres. Hein. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles.
Ah,
Hein.
tu penses vraiment, Philo? Au
Ah ouais,
final, il
attends.
n'y a que le PSG hein, qui se traîne cette pression.
Non, mais quand tu joues Monaco, enfin, Monaco peut pas dire qu'il joue pas le titre. T'as vu les, comme l'a dit Omar, t'as vu l'effectif qu'ils ont. Ils font quand même rentrer Jovetic, Golovin et tout. Ils sont sur une série
Ah,
où
Jovetic et
ils.
Golovin, ils étaient aussi dans l'effectif quand ils finissaient 15e. Hein.
Ouais, mais justement, ils étaient blessés, c'est peut-être pour ça qu'ils étaient 15e, les mecs. Non, franchement, Monaco, t'es obligé de les prendre au sérieux. Ils ont
Non, mais que tu les
probablement.
prennes au sérieux, oui, mais je pense pas que ils doivent jouer avec la pression de devoir gagner le titre. C'est un
Ah,
objectif
si.
pour eux, mais c'est pas une obsession et c'est pas une obligation. Et nous, c'est nous qui avons cette obligation-là et cette pression-là. Si
Ouais,
Paris
mais.
perd le titre, enfin, on a tout à perdre et les autres ont tout à gagner. Après, c'est vrai que là où ça devient peut-être un peu plus tendu pour les autres équipes, c'est que vu que c'est serré entre quatre équipes, il y en a une qui va finir forcément à la place que personne ne veut, c'est-à-dire en dehors de la Ligue des Champions. Et là, tu peux avoir quand même la pression de te dire, on peut tout perdre. Et on peut non seulement effleurer le rêve d'un titre qu'on ne gagne pas depuis 10 ans pour Lille, depuis presque 15 ans pour Lyon et depuis 4 ans pour Monaco, mais tu peux finir aussi à la quatrième place et rater la Ligue des Champions pour une deuxième année de consécutive pour les trois équipes. Donc forcément, il y a peut-être cette pression-là, mais la pression de jouer le titre, je pense qu'honnêtement, il n'y a que Paris qui l'a. Hein.
Oui et non. Enfin, pour moi, tous, ils sont. On est à la 28e
Qui pense
journée.
oui, mais ça serait pas un échec s'il finissait deuxième
Non, ça
au
serait
bout
pas
de
un
ces
échec.
trois.
Mais aujourd'hui, au début, au coup d'envoi des rencontres, vu où on en est au classement, après, on est quand même dans le dernier tiers du championnat déjà. Normalement, à cette époque-là, le PSG a 12 points d'avance. Tout le monde sait qu'on a rendez-vous avec l'Hexagone avant-dernier match de la saison. Les feux d'artifice, tout ça, c'est la fête. Thierry qui vient avec sa moustache, je pensais plus Thierry, mais vous m'avez compris quoi. Normalement, le championnat, il est réglé à cette période-là. Là, il y a tout le monde qui est en liste. Et on le voit, bizarrement, à chaque fois que le PSG joue en premier, que les autres jouent dans la donc les matchs après, donc Paris a mis un peu la pression, il y en a au moins un des trois qui se rate. Lille, ça a été deux fois le cas, Lyon, pareil. Et je trouve que c'est pas un hasard, justement, si dès qu'ils sont un peu sous pression par rapport à la course au titre, ils se loupent un peu, quoi. Mais pour moi, tous, au coup d'envoi des matchs, ils se disent, il faut qu'on gagne par rapport à la course au titre. Et heureusement qu'ils ont cette ambition, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça sera que le PSG va être comme ça, comment dire, en donner autant de points dans la saison avec 6 défaites et co. Mais je trouve qu'il y a, pour le coup, il y a une vraie pression de la part des équipes qui se le mettent entre elles et qui se répondent un peu au coup pour coup, semaine après semaine. Hein. Et on a beaucoup parlé de Monaco parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sur 2021, c'est les meilleurs. Et d'ailleurs, en nombre de points, c'est eux qui en ont pris le plus, hein, d'assez loin même, me semble-t-il. Mais Lille a quand même pour eux le fait d'être toujours en tête en ayant une phase un peu moins bonne. Lyon est toujours là, un gros effectif malgré tout, parce que Lyon a gardé un effectif de demi-finaliste de Ligue des Champions en n'étant que en course pour la Ligue 1. Moi, je trouve qu'il y a quand même aujourd'hui 4 équipes qui peuvent viser 80 voire 85 points. C'est pas rien. En France, c'est pas arrivé depuis des années. Je trouve qu'il y a. On me dit sur la live, c'est marrant qu'il y ait une course au titre alors que le niveau est faible. Oh, le niveau est moins faible qu'il y a quelques années en Ligue 1 déjà. Et bah déjà, c'est cool quoi. Mais enfin, pour moi, il y a une vraie course au titre et c'est ça qui est fou, c'est que les 4 peuvent y croire. On nous dit qu'il y a un Lille-Lyon fin avril. Bah, c'est ça. Mais même le PSG, là, enfin, là, on a parlé de Strasbourg et tout, mais nous, quand on va devoir aller à Strasbourg, on va pas rigoler, par exemple. Hein. Le PSG a une très belle, a aussi un très gros calendrier. Je vous signale qu'on va devoir aller à Metz, qui est cinquième. On va devoir aller à Strasbourg, qui est toujours super dur à battre. On va devoir aller
On
à
enchaîne
Rennes.
Strasbourg, Lille et Lyon, hein,
Voilà, Strasbourg-Lille,
avec la trêve au milieu et au retour de Barcelone.
on doit aller à Rennes. On doit aller à Brest à la dernière journée.
Lens en saison au Parc, c'est le moment où on perd le titre, normalement.
Bon, bah. Normalement, Lens aura peut-être plus rien à jouer et tout sera peut-être un peu en mode.
Ils vont jouer l'Europa League du bout. Kalimuendo a encore arraché un point dans les arrêts de jeu ce week-end. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent maintenir un peu tout le monde dedans, quoi, parce que vu que non seulement il y a la course au titre, mais aussi des équipes qui poussent derrière pour les places européennes et qui se tiennent vraiment sur peu de points. Les 8-9 meilleures équipes de Ligue 1 ont totalement la pression tous les week-ends. Là, et ça peut donner des niveaux compétitifs très élevés. Quand même.
Ah, c'est... Je croyais que tu n'avais pas fini, excuse-moi. C'est bon. Ouais, non, oui, Kalimuendo qui a mis son 6e but de la saison, donc c'est pas mal. Hein. Mais bon, je sais pas, j'avoue que la course au titre me paraît être ouverte jusqu'à là, ouais, peut-être même 38e journée. Bon, c'est cool, hein, au moins, comme tu l'as dit, je crois que c'est toi, Omar, on n'aura pas des matchs galvaudés en faisant n'importe quoi. Bon, peut-être le dernier si on est champion avant, mais bon, même celui-là, je suis pas sûr qu'il soit pour rien, quoi. Donc,
après, ça rappelle un peu la course au titre en 2015, du coup. On était aussi 4 avec Monaco, Marseille et Lyon, même si Monaco avait fait surtout son sprint sur la fin. Je crois qu'à cette époque, fin février, début mars, ils n'étaient pas encore totalement dans la course. Et ils avaient vraiment réduit la distance face au Martial de Bielsa qui s'était un peu effondré un peu sur la fin. On était pleinement dans une zone très serrée où il n'y avait pas de marge et on avait dû faire une série puisqu'on avait terminé par 8 ou 9 victoires cette saison-là.
Oui, c'est ça. En fait, on s'était cramé en Ligue des Champions puisqu'on avait des suspendus et des blessés. Et on avait lâché pratiquement à la Champions League. Souviens-toi, le match retour à Barcelone, on aligne une équipe. On avait perdu 3-1 à l'aller. On savait qu'il y a c'était rien. Enfin, qu'on n'avait plus aucune chance. Donc, on avait tout joué sur la Ligue 1 quand même.
Je ne sais pas si ça avait commencé. Enfin, je ne pense pas que le point de départ, c'était l'élimination en Ligue des Champions. Parce qu'avant le match aller face à Barcelone, on joue à Marseille, par exemple. 3 jours avant. 4 jours avant. 3 jours.
Non, 10 jours avant, puisque David Luiz, il a le temps de faire les injections de sang de cheval qui ont donné d'excellents résultats, comme on s'en rappelle. Chaque anniversaire de Luis Suarez nous rappelle la qualité du traitement qu'il a reçu, puisqu'il finit dans ses best-of à chaque fois. Bon, voilà quoi. Non, sinon sur la course au titre, on me demande, j'ai pas étudié les calendriers, lequel a le calendrier le plus simple, honnêtement, je saurais pas vous le dire, ou le plus compliqué. Bon, pour moi, le PSG a quand même un calendrier vraiment pas simple, mais enfin, si vous regardez un peu depuis, allez, on va dire 10 journées, en gros, depuis la reprise en 2021, parce qu'on a déjà joué 9 journées en 2000, même 10 journées en 2021, je crois. C'est pas forcément les matchs qui, sur le papier, sont les plus compliqués qui font perdre le plus de points. Lyon a perdu à domicile contre Montpellier et Metz, par exemple. Lille a perdu des points à domicile contre Brest et Strasbourg, alors qu'ils sont allés gagner des matchs beaucoup plus compliqués. Genre, ils jouaient Lorient, qui était en pleine forme, ils les ont éclatés. C'est pas... La course au titre, justement, c'est vraiment être capable de gagner tous les matchs qui se présentent, quel que soit le scénario. Après, c'est sûr que gagner dans un match contre un concurrent direct, ça vous fait basculer. Enfin, on l'a peut-être pas assez dit la semaine dernière, mais quand on perd contre Monaco, quelque part, on leur laisse la route du titre. Enfin, tu les mettais
Tu leur fais croire.
Tu leur fais croire aussi. Voilà. Mais tu les mettais à 9 points de Lyon, de Lille, en gagnant la semaine dernière. C'était une autre affaire. D'ailleurs, si on avait gagné contre Monaco, on serait peut-être aujourd'hui en tête du classement de Ligue 1, parce qu'on est à 2 points de Lille aujourd'hui.
Bon. C'est sûr. Et puis, en termes d'auto-estime, quand tu viens gagner au Parc face au PSG, juste après... une démonstration du PSG en Ligue des Champions, forcément tu te sens beaucoup plus fort en tant qu'équipe et les adversaires que tu croises ensuite te regardent un peu différemment et vont être un peu plus méfiants et commencer leur match un peu plus sur la défensive. Ça c'est évident et pour Monaco c'est aussi pour ça que perdre ce match-là c'était une très mauvaise idée sur le plan numérique mais aussi sur le plan du boost que ça a pu donner à une équipe comme Monaco qui désormais se sont un peu propulsés avec le vent dans le dos. Mais par contre, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que Lille et Lyon ont quand même et Paris aussi, les trois équipes ont perdu plus de points sur depuis le début de la phase retour que Monaco sur l'ensemble de la phase retour en 2017. Ça montre quand même que la course est plus accrochée, mais aussi qu'il n'y a pas d'équipe du niveau de Monaco qui ne trébuchait sur aucun match, qui les gagnait presque tous, hein, puisque sur la phase retour, ils font 17 victoires et 2 nuls. Là t'as pas ce niveau d'équipe là et donc c'est pour ça aussi que c'est un peu plus incertain, c'est que d'un côté une équipe qui perd des points peut ne pas se sentir complètement décrochée parce que les concurrents peuvent reperdre l'avance qu'ils ont eue sur la journée d'après, donc c'est en ça que la course est assez indécise.
Ouais, sur le live on me faisait une remarque, attendez, j'ai perdu la remarque, bon c'est pas très grave, tant pis. Je suis désolé, j'ai complètement loupé.
Il faut balancer la Coupe de France, oui, c'est une très bonne remarque.
Non. Ah non, on disait, la notion de joueur indispensable ne s'appliquait qu'à la Ligue des Champions, elle s'étend désormais à la Ligue 1. Sans Neymar et Di Maria, c'est ni l'un ni l'autre. Alors je ne veux pas vous casser vos espoirs, mais Neymar est de pratiquement toutes les défaites du PSG de cette saison, Di Maria, idem. Hein. Aujourd'hui.
Sachant que Neymar a débuté que 9 matchs.
Ouais, voilà. Donc, bah là, je crois que la seule où il joue pas, ça doit être celle contre. Bah, il y a Lens. Bon, forcément, Lens, on joue avec une équipe B, par exemple.
Monaco, il joue pas. Monaco et Lens.
Et le Monaco, le retour. Ouais. Mais Monaco, l'aller, quand on fait la deuxième mi-temps de la honte, il rentre, je crois qu'on mène 2-1, non? Ou on est déjà à
C'est
2-2?
ça. Non, il y a 2-1.
Il y a 2-1 pour nous, et bon, il est de la dernière demi-heure où on est ridicule, quoi. Donc, bon, faut pas. Et Di Maria, de mémoire, Non, Di Maria ne doit pas jouer, parce qu'il me semble qu'il est blessé à ce moment-là. Mais bref, c'est pas forcément les plus grands noms qui ont fait les meilleurs résultats. On nous dit Monaco va à Strasbourg mercredi. On a Bordeaux-PSG, on a Lyon-Rennes. Alors, Lyon, qui est quand même pas mal, puisqu'ils jouent contre Rennes, qui a plus d'entraîneur actuellement, quand même. Et le
Les
dernier.
inquiète, hein, le fait qu'il y ait comme ça une remise en.
Ça les inquiète?
Ouais, qu'il y ait comme ça un sursaut sur après un changement d'entraîneur.
Bah
Un
c'est
effet
sûr.
nouveau coach.
S'il y a Pep Genesio qui débarque, attention quoi. Et le dernier match, c'est Lille-Marseille. Et on a vu que Marseille est capable en ce moment d'être irrégulier, mais bon, ils ont quand même des joueurs un peu talentueux, Marseille. Ils perdent pas beaucoup en ce moment avec Nasser Larguet. Ils ont une victoire seulement, mais 3 matchs nuls. En étant allé quand même à Lens, qui est plutôt une bonne équipe, en ayant reçu Lyon. Même contre le PSG, ils n'avaient pas été ridicules. On va voir s'ils sont capables de prendre les points. À voir. On a fait le tour de la course au titre. Simon, tu veux rajouter quelque chose? Mathieu, Omar? Non? Et c'est vrai que nous,
Non, non, rien.
on nous rappelle qu'on va forcément relancer Ben Arfa. Est-ce qu'il va jouer? C'est pas certain, parce que je pense que Koscielny est prêt à se battre avec lui à
Et que
l'entraînement
cette fois,
pour pas.
on peut éviter une lucarne de Yacine Adli, ça serait pas mal.
Oui, c'est vrai qu'Adli, par contre, il risque de jouer, puisque lui, il fait partie des joueurs qui sont aujourd'hui en train de vouloir sauver un peu Bordeaux, de se battre pour arrêter d'être ridicule en Gironde. Ah, pourquoi Mbappé est suspendu à Bordeaux? Parce qu'il a pris 3 avertissements en moins de 10 matchs à l'échelle nationale. Que ce genre de suspension, donc pour éviter que les mecs prennent un carton à chaque match, donc s'applique à partir du lundi à minuit. Et donc il a pu jouer à Brest, à Dijon ce week-end. Mais le premier match à partir du lundi à minuit, bah c'est Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'il est suspendu à Bordeaux ce mercredi soir. Voilà. On vous fait des tableaux récapitulatifs régulièrement sur le site pour expliquer les suspensions, parce que c'est pas toujours très très clair. Mais voilà pourquoi. Un petit point sur le match sur le Barça. Bah, globalement, visible. Moi, j'ai pas du tout vu le match. J'ai juste vu beaucoup de choses positives sur leur rencontre. Ils ont gagné 2-0 à Séville, qui est quand même pas une mince performance. Et visiblement, Koeman avait fait quelques ajustements tactiques qui ont porté leurs fruits. Je sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, si vous avez vu un bout du match du Barça ce week-end.
Défense à 5 pour
Ah,
le Barça.
d'accord, oui.
Avec Minguesa et Dest ensemble.
En
Et
à côté
Griezmann du
droit.
coup sur le banc et ouais. Et
Et
Griezmann du coup sur
Dembélé
le banc.
très très actif sur le front de l'attaque.
Ils ont joué
Du
avec
coup, de l'argent.
Dembélé et Messi devant, c'est ça?
Ouais.
D'accord. Ok. Et par contre, oui, ils ont perdu Pedri probablement pour le match contre le PSG, même si on sait que l'infirmerie catalane est extraordinaire. On a déjà eu plusieurs preuves, mais en tout cas, ouais, là, normalement, lésion au mollet, si je me trompe pas. Et voilà, après on nous dit que Séville n'a pas joué en attendant la coupe. Oui, Barça, un très gros match de mercredi soir en Coupe du Roi, puisqu'ils ont perdu 2-0 à l'aller en Coupe du Roi à Séville, donc. Et ils reçoivent Séville pour le match retour. Donc voilà. Et oui, Araujo et Piqué se sont blessés. Non, Piqué, comme je l'ai mis sur le site, visiblement c'était prévu qu'il joue 1 heure, pas plus. Et Araujo, par contre, il est revenu, il s'est encore blessé à la cheville qui avait été touchée. Et ce gros malin en sortant, il a mis un énorme coup de pied je sais plus si c'était le banc de touche ou les trucs qui traînaient au bord de la pelouse, histoire d'être sûr d'être bien bien
C'est
blessé.
des Uruguayens, c'est rien, c'est normal.
C'est normal. Après, Aroro, visiblement, était prêt à jouer en serrant les dents comme pas permis. Mais bon. Il n'y a pas une nouvelle du retour éventuel de Sergi Roberto pour le match retour. Donc on verra. Et lui, je pense pas qu'il sera prêt à temps non plus. Hein, voilà. Mais bon, on va voir. Et sinon, bah rien de nouveau. Après, ils joueront à Pampelune contre l'Osasuna samedi soir pendant qu'on sera à Brest. Voilà. Écoutez, on a, je pense, globalement fait le tour de l'actualité du PSG avec ce Dijon PSG. On fera pas de podcast de débrief de Bordeaux PSG. Hein, voilà. On fera un podcast éventuellement, même c'est sûr, lundi prochain avec Brest PSG et le retour contre Barcelone. On va voir ce qu'il en est. On a fait donc un podcast qui a duré moins de 2 heures, mais quand même 1 heure et demie sur ce formidable Dijon PSG qui a bercé notre samedi après-midi. On vous remercie énormément pour votre fidélité, parce que vous êtes quand même près de 300 à nous écouter sur un match qui ne faisait pas rêver, donc ça fait vraiment très plaisir. On vous souhaite une bonne soirée. Encore merci pour tout. Tous les likes éventuels sur le live YouTube, ou si vous voulez les mettre après, vos messages. En tout cas, on espère qu'on a été assez complet. Et donc, le Tipeee est toujours d'actualité. Le livre est toujours disponible aussi, j'oubliais. Voilà. On vous souhaite une très bonne soirée. Et on vous dit donc à lundi prochain. Au revoir tout le monde.
Ciao.
Bah, Mathieu, Omar, c'est bon.
Ciao,
bonne soirée, bisous.
Voilà, ciao, vous avez eu les bisous de Simon, on peut s'arrêter, on fera pas mieux. Ciao, ciao tout le monde.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.